Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 30 octobre de 18 à 21h, en différé jeudi 31, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque, car Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85. Par télécopieur au 01
46 51 21 82.
Amis de la dissidence, bonsoir.
La dissidence enchante.
Je peux décidément pas supporter ces casques. Le casque lourd de la Wehrmacht était plus confortable. Ce soir, au programme, Monique Beljanski. Bonsoir, madame.
Bonsoir.
Jean-Paul Leperlier. Bonsoir, Jean-Paul.
Bonsoir.
Monique Delcroix. Bonsoir, Monique Delcroix.
Bonsoir.
Et puis, un peu plus tard, Arnaud Aaron Upinski et Monsieur Boiry. Viendront nous parler de quoi? De...
Je ne sais pas.
Ah voilà, elle ne sait jamais rien.
Je ne sais rien, on me cache tout.
Épistémologie.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah bah voilà, bien sûr. Elle ne sait décidément rien. Vous n'avez pas le bac?
Il y a si longtemps, vous savez, j'ai oublié.
C'est même plus.
Parlait-on d'ailleurs d'épistémologie, d'épistémologie de mon temps, là?
On disait le bachot, d'ailleurs.
Ah, c'était mieux.
Vous avez passé le bachot?
J'ai passé le bachot.
C'est bien.
Lettres, s'il vous plaît.
Ah, ça c'est très... Il y avait encore... Oui, ça existait déjà.
Latin, grec, mon cher.
Ça existait déjà, je dirais même pas réagi.
Mais non.
Bien,
mais non,
alors, la raison de la présence parmi nous de Monique Beljanski et de Jean-Paul Leperlier, c'est un livre. Alors, il faut que je vous raconte quand même quelque chose, c'est qu'hier soir, j'ai reçu ce bouquin, je me suis dit quand même, demain je fais l'émission, il faut quand même que je lise un peu le bouquin, au moins que je parcours. Alors je me suis dit, je vais parcourir rapidement une page sur cinq, et puis on verra bien. Et puis j'ai lu la première page, et à 2h30, j'ai posé le livre, et j'ai pris ma plume pour écrire au héros de ce livre,
qui s'appelle
Gérard Wedlich, pour lui dire toute l'admiration que j'avais pour lui. Parce que ce livre s'appelle « Enquête sur un survivant illégal ». L'affaire Gérard Wedlich. Alors, Gérard est venu souvent à cette émission. On va l'avoir tout à l'heure au téléphone. Mais on le connaît mal, en fait. Parce que ce qu'on connaît de lui, c'est l'homme du CIRIS. L'homme qui a été le président de l'association...
Ce n'est pas le cas de tous les gens publics.
Oui, c'est vrai. Le président de l'association, le centre d'innovation
de recherche et d'innovation
scientifique, qui est l'association qui soutient, qui a soutenu et qui continue à soutenir les travaux de Mirko et Monique Beljanski. Et on le connaissait comme ça, comme président. Bon, on savait pourquoi il en était le président, c'est qu'il avait été contaminé en tant que maître nageur sauveteur en tentant d'arracher à la mort un noyé, qui lui-même était porteur était sidien. Et bon, mais ça faisait partie des choses qu'il nous avait dites comme ça, mais on n'était pas entré dans le détail. Et ce livre raconte, on peut dire, la vie et le combat de Gérard Wedlich. Et alors là, on découvre, à travers sa vie et son combat, ce qu'ont été, non pas la vie, mais ce qu'a été le combat de Mirko Beljanski et de vous, Madame Beljanski, et le combat de tous ceux qui ont lutté contre cette formidable machine d'État, cette formidable mafia, à la fois financière, scientifique ou pseudo-scientifique et étatique, qui s'est mise en branle pour vous interdire, pour interdire au professeur Beljanski d'aller au bout de ses recherches. Ils ont fini d'ailleurs par le tuer, il faut bien le dire, parce que Gérard Wendlich dit en disant que le professeur Beljanski est mort d'offense, ce qui m'a choqué la première fois, parce que la première fois qu'il m'a dit ça, je lui ai dit, mais je sens pas ce mot-là, parce que mort d'offense, c'est pas un langage qu'on utilise.
Et quand vous avez lu le livre,
et quand j'ai lu le livre, j'ai senti toute la force de, toute la vérité de cette expression. Alors, on va parler de ce livre, on va faire le point sur ce qu'on appelle l'affaire Beljanski, qui dure maintenant depuis plus de 30 ans. Parce qu'il y a du nouveau, et j'aimerais bien, Monique Beljanski,
oui,
que vous nous en parliez.
Oui, d'un procès en appel.
Je vais vous demander de vous approcher un peu
du... On sort du procès en appel, qui était tout à fait différent du procès qui a eu lieu à Créteil, qui était en première instance. Là, c'était le procès en appel, donc, et le climat était tout à fait différent. Je dois dire que j'ai un souvenir absolument odieux de ce qui s'est passé à Créteil. Les malades sont venus, ont témoigné de façon très émouvante de leur souffrance, de leur maladie et du bienfait des produits. Et le procureur ricanait en disant ils ont bien appris leur leçon. Enfin, le climat était vraiment odieux. Il n'y a pas d'autre
mot. Et puis les condamnations
étaient féroces et on nous accusait, ce que j'ai très mal supporté, on nous accusait de tromperie. Tromper qui ? Il n'y avait personne pour se plaindre que uniquement les apparatchiks.
Et la concurrence, quand même. C'est-à-dire la concurrence.
C'est ce que j'appelle. C'est-à-dire Aide, ACT UP et la Ligue contre le cancer, qui sont très mal placés, à mon avis, pour se plaindre et demander des...
L'ARC n'avait pas ses curieux, on ne sait pas pourquoi. Pourtant, il y a du fric à prendre, là.
Il y a partout du fric à prendre, mais ces trois-là se sont manifestés. Nos avocats ont très bien plaidé. Ils ont dit que c'était absolument indécent de vouloir racketter une petite association de malades, alors qu'il n'y avait aucun malade qui se portait mal. Mais finalement, j'ai bien compris la raison. C'est parce qu'ils estiment que tous les malades qui ont fait appel à nos produits, ce sont des malades en moins pour les produits dont ils ont des subventions, de la Welcome, des industries pharmaceutiques. Donc, si vous voulez, c'est ça la vraie motivation de leur plainte. Ils ont quand même eu en partie gain de cause, c'est-à-dire que, je ne me rappelle plus les chiffres, on est quand même condamné à leur verser une certaine somme solidairement. Mais ce qui m'a fait plaisir dans le verdict en appel, c'est que ils ont complètement renoncé à toute notion de tromperie. C'est-à-dire qu'après nous avoir traînés dans la boue pendant des années à dire que c'était des produits qui n'avaient aucune efficacité, que c'était de la poudre de perlimpinpin, qu'on était des charlatans, ils ont quand même été obligés de reconnaître qu'il n'y avait absolument aucune tromperie, que ça veut dire que les produits sont bien ce qu'on a dit qu'ils étaient.
C'est un peu difficile d'ailleurs pour un magistrat, quand il a devant lui 30, 40 ou 50 témoins qui arrivent avec leurs dossiers médicaux.
De toute façon, je trouve très bizarre que ce soit des magistrats qui ne soient pas spécialisés dans ce domaine-là. On a passé un temps fou à définir un médicament ou un complément alimentaire et on n'a absolument pas parlé de l'intérêt pour les malades. C'est-à-dire que c'est vraiment une question de formulation de si c'est un médicament, il doit avoir l'AMM et on est coupable parce qu'on n'avait pas d'AMM. Si c'est pas un médicament, à ce moment-là, tout est permis. C'est absolument... c'est imbécile.
Mais
on ne tient pas compte du tout de ce qui est bon pour un malade ou pas bon.
J'entendais en revanche, alors vous n'avez jamais pu avoir l'autorisation de mise sur le marché, mais on va reparler de tout ça. Mais j'entendais ce matin qu'un médicament pour maigrir est sur le point d'être retiré du marché parce qu'il avait, alors lui, toutes les autorisations de mise sur le marché nécessaires. Mais en Italie, on s'était aperçu qu'il y a des dizaines de gens qui sont morts en le prenant.
Mais ça arrive tout le temps. Voilà. Rappelez-vous le diethylstilbestrol qu'on a distribué à toutes les femmes qui étaient enceintes pour éviter les vomissements, etc. On a attendu un certain temps pour le retirer du marché après qu'on sache, sur les souris, on sait très vite les inconvénients pour la deuxième et troisième génération. Mais là, pendant des années, années, on a continué à le distribuer, ouais. Et même bien longtemps après que ce soit arrêté aux États-Unis.
Alors, ce dont je m'aperçois, je fais le coup à chaque fois, d'ailleurs c'est pas professionnel, c'est qu'on parle d'un sujet que peut-être beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas, parce que les auditeurs évoluent beaucoup à Radio Courtoisie, et donc il y a beaucoup d'auditeurs qui ne savent sans doute pas de quoi il s'agit. Je vais me tourner vers Jean-Paul, qui est journaliste, qui a enquêté sur ce que j'ai appelé l'affaire Beljanski, pour lui demander, avec le recul du journaliste, de nous dire, premièrement, ce qu'est le Beljanski, quel est le produit, en quelque sorte, les produits, sur le plan technique,
je crois que Mme Beljanski est mieux passée que moi.
Bien sûr, mais c'est pas sur le plan technique.
Moi, je peux parler simplement d'une enquête journalistique, voilà. Qui a été la plus... prégnante, la plus intéressante que j'ai faite en pas mal d'années de journalisme quand même. Aucune ne m'a ému à ce point-là, ne m'a dégoûté à ce point-là des autorités. Bien que j'ai commencé cette enquête contre Beljanski sur la demande d'une de mes amies, persuadée que c'était un escroc, parce que ça semblait invraisemblable que quelqu'un puisse soigner à la fois le cancer et le sida avec la même molécule, alors que dans le monde entier, avec des crédits énormes depuis des années, les plus grands chercheurs ne trouvent pas. Et j'ai donc commencé à enquêter là-dessus en me disant, bon, finalement, savoir s'ils sont des médicaments ou pas, c'est pas ça le véritable problème, comme vous le disiez à l'instant. Le seul problème, c'est au niveau des malades. Est-ce que ça les guérit ou est-ce que ça les guérit pas? Parce que quand quelqu'un est sur le point de mourir, il se demande pas quelle sorte de règlement, quelle sorte d'administration est concernée. Il essaye de sauver sa vie. Alors, j'ai enquêté en m'intéressant uniquement aux malades et en me disant, je vais trouver les gens éplorés, victimes d'un escroc, ne s'étant pas soigné pour avoir pris ces produits-là et négliger les autres. Et j'ai donc commencé à chercher. Je suis arrivé chez des gens qui me disaient, bah, écoutez, mon mari a été merveilleusement bien soigné par le grand professeur Intel. Il me disait, c'est merveilleux, puis-je parler à votre mari? Bah, mon mari a été bien soigné, mais enfin, la science a fait tout ce qu'elle a pu, il n'est plus là. Et j'ai continué à chercher jusqu'à un moment où on me dit, bah, écoutez, oui, mon mari a été soigné par un produit très controversé, puis-je parler à votre mari? Ah ben, bien sûr, il est au fond du jardin en train de bêcher ses fraisiers, là, il se porte très bien. Et j'ai commencé à rencontrer comme ça j'ai commencé d'échec en recherchant les victimes de l'escroc que je trouvais toujours pas. Jusqu'au jour, alors ce serait trop long à raconter, bon, il y a eu beaucoup d'enquêtes, hein. Jusqu'au jour où j'ai cru trouver ma solution, mon escroc, là, que j'ai cru coincé parce qu'il y avait un médecin de l'île d'Oléron qui était jugé au tribunal de l'ordre des médecins qui se trouve au boulevard Malesherbes à Paris. Et là, j'arrive, mon cœur de journaliste fait un bond dans ma poitrine. Me dites pas que je dis trop journaliste, vous me l'avez déjà dit, hein. Bon. Madame Beljanski a l'habitude de me reprendre. Bon, donc, je me suis dit, ça y est, j'ai réussi mon enquête, c'est parfait, je tiens mon scoop. Il y avait des victimes partout. Il y en avait sur le trottoir à l'extérieur du tribunal, il y en avait dans le hall du tribunal, et il y en avait dans la salle. Tout ça était plein de victimes, enfin de malades en tout cas. Et alors je commence... Parce que
vous pensiez que c'était des gens qui venaient
porter... Ah ben absolument, je venais pour les chercher, donc j'étais persuadé que c'était ça. Vous savez, on a tendance à se persuader au début d'une enquête, c'est d'ailleurs très bien, c'est pas très professionnel. Je parle là au grand professionnel que vous êtes et je me sens en faute, mais c'est comme ça que j'ai quand même fonctionné. J'ai été victime de ce syndrome, j'étais persuadé que c'était un escroc. Bon, très bien. Et alors je commence donc à prendre mon petit micro, puis je prends les adresses des gens à toute vitesse dans l'idée de les rappeler. J'ai pas le temps qu'ils m'expliquent parce qu'il faut le maximum de témoins et après j'ai toute la semaine moi pour les appeler ou des mois entiers. Et j'enregistre des noms. Mais pendant ce temps-là, mon oreille traîne. Et puis je me dis, mais il y a un défaut là quelque part dans l'ambiance. Qu'est-ce qui va pas là? Et j'arrête d'enregistrer et je commence à écouter et je réalise que les gens qui étaient là étaient tous venus soutenir le médecin qui leur avait sauvé la vie. Alors je vais passer parce que ça sera un petit peu long. Bon, il s'est avéré qu'en définitive, qui avait porté plainte. Il n'y avait aucun malade qui portait plainte. C'était d'autres médecins qui voyaient se vider leur cabinet parce que les gens préféraient être guéris illégalement par ce médecin-là que de mourir légalement avec d'autres. Et les autres médecins, voyant l'argent disparaître, avaient porté plainte joyeusement contre leurs collègues. Voilà. Voilà. Et alors, l'avocat de la personne du médecin accusé dit, écoutez, bon, vous voyez tous les centaines de témoins qui sont là. Si vous voulez, on peut faire un procès qui peut durer 6 mois, si ça vous fait plaisir, ils peuvent tous parler. Hein. Mais on va en faire parler un seul, qui va parler au nom des autres, à la fois en tant que malade guéri et en tant qu'expert. Et la personne qui a parlé s'appelait Monsieur Boiteux. Ouais. Il avait dirigé un centre de recherche contre le cancer à Villejuif, un centre scientifique de recherche contre le cancer. Il en avait été l'administrateur pendant 11 ans et demi, je crois. Hein. Et il était également chimiste. Moyennant quoi, s'agissant de chimiopharmacie.
C'était le frère du patron
de
l'EDF.
Oui, tout à fait. Oui, c'était quelqu'un de sérieux, une famille sérieuse, quelqu'un d'absolument insoupçonnable. Mmh. Bon, c'était à la fois donc le miracle, c'était à la fois le témoignage d'un malade, mais aussi d'un expert. Et lui a expliqué, parce que donc il s'est trouvé avoir un cancer à son tour, et il s'est guéri avec les produits Bejanski. Alors il a expliqué dans le tribunal, en scientifique, avec les documents à la main, comment il prenait les produits Bejanski, comment ses marqueurs cancéreux diminuaient, comment il arrêtait les produits Bejanski, étonné quand même, c'est de l'aspect du scientifique, voulant savoir, et les marqueurs cancéreux remontent. Là, le président lui dit, mais enfin, vous avez quand même pris des risques. Hein. Il dit, oui, mais je voulais savoir, je voulais être certain, voilà. Et puis il reprend les produits Bejanski, ses métastases, parce qu'il était condamné, il le savait, il n'avait aucune chance, hein, il le dit bien. Ses métastases commencent à diminuer, il continue les produits, la tumeur diminue, la tumeur disparaît. Et le président lui demande, mais vous avez quand même eu des effets secondaires. Effectivement, j'avais de l'arthrose et des polypes, je n'en ai plus. Voilà l'histoire. Mais elle est totalement réelle. Et, ouais. Et cet homme-là est un scientifique, il sait de quoi il parle, c'est ce qu'on appelle, pour prendre le langage à la mode aujourd'hui, on a un peu honte, mais c'est incontournable. Mmh. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait changer mon fusil d'épaule et que si je cherchais un escroc chez Bejanski, j'avais aucune chance de le trouver. Et j'ai compris que l'essentiel du scandale Bejanski, c'était surtout que l'État ne donne pas à ce chercheur extraordinaire les moyens de faire bénéficier l'ensemble des malades de ces produits. Hein. Et c'est d'ailleurs à la même époque, je crois, qu'un tribunal de Saint-Étienne qui avait déjà été utilisé par, je crois, sur une plainte de Claude Évin, si je ne me trompe pas,
Madame Bejanski, c'est ça.
C'est ça, hein. Donc un tribunal de Saint-Étienne est arrivé à la même conclusion, que le scandale c'était effectivement qu'on n'ait pas aidé Bejanski et qu'il n'y avait rien à retenir contre lui. On lui a mis un franc de dommages et intérêts, de même qu'on avait mis un franc de dommages et intérêts à ce médecin, parce qu'il faut quand même bien, la loi est là, le produit n'était pas vraiment au plan réglementaire, etc. Mais l'essentiel, il était dans la salle, c'était tous ces malades guéris, et moi, c'était, en tant que journaliste, c'est ce qui m'intéressait, parce que jusqu'à nouvel ordre, en matière de soins, le dernier et le seul qui devra avoir la parole, c'est l'usager de la médecine.
Ça a beaucoup plus de poids qu'un expert qui travaille in vitro, déjà, et qui, en plus, a deux pieds dans l'industrie pharmaceutique. Donc, il ne peut pas être jugé parti.
Mais c'est ce qui est très, très frappant là, dans l'affaire Bejanski, c'est la dimension totalement frénétique que ça prend. C'est-à-dire que on connaît, c'est une vieille histoire, le débat entre la médecine officielle et la médecine non officielle. Moi, j'ai plusieurs amis médecins qui pratiquent des thérapies qui ne sont pas reconnues officiellement, qui ont eu des problèmes. J'en connais un qui n'a été protégé que par le fait qu'il était médecin militaire. Donc il n'était pas susceptible d'être chassé du cancer.
Excusez-moi d'intervenir, mais tout de même, il suffit d'une décision pour que ce soit de la médecine officielle. C'était quelqu'un qui était docteur en sciences, qui était un grand biologiste, comme Pasteur. Il suffit d'une décision pour qu'il ait été le Pasteur d'aujourd'hui. Tout ça remonte à des jalousies qui débutent avec la carrière de Bejanski, dont, je ne dirais pas le génie parce que Madame Bejanski est trop modeste, mais dont les capacités ont été beaucoup trop loin pour d'autres. Et qui se sont trouvés vexés de ces résultats quand il a remis en question les recherches de Monod.
C'est pas un secret.
Je crois que après des années et des années de persécution liées du fait de l'Institut Pasteur, c'est pratiquement impossible maintenant de reconnaître l'efficacité des produits Bejanski sans recevoir une gifle en pleine figure. Et donc il faut poursuivre cette agressivité.
Ce qu'on sent très très bien, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire la disproportion totale de l'affaire. Chaque fois qu'il y a, je pense au docteur Scoï, je pense à d'autres médecins comme ça qui ont été radiés parce qu'ils avaient un différend avec le Conseil de l'Ordre, ça restait en gros dans les limites d'une action en privé, je dirais. Mais dans le cas de Bejanski, quand on lit dans le livre de Jean-Paul la façon dont il y a eu des centaines d'arrestations, de perquisitions, de saisies de matériel
en
France.
Non, peut-être pas des centaines, enfin, mais il y a eu au moins 200 gendarmes.
200 gendarmes, c'est ça, qui sont intervenus dans toute la France.
Tout à fait.
Et il y a un chapitre. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce bouquin est passionnant, je l'ai dit, mais il est aussi écrit comme un reportage.
C'est très émouvant.
Et alors, je ne veux pas me faire de la lecture trop longtemps, mais enfin, il y a un chapitre qui est un CRS sur les gendarmes, chapitre 12, qui raconte la descente des gendarmes.
C'est chez les gendarmes. Un CRS chez les gendarmes.
Oui, c'est ça, un CRS chez les gendarmes. Et ça raconte la descente des gendarmes chez Riedlich, qui était CRS, il faut le rappeler, maître d'agent sauveteur. Mais quand on lit ça, si je ne connaissais pas Jean-Paul depuis des années, j'aurais dit, bon, enfin, c'est du roman chez la portière, c'est pas possible, ça arrive pas, des choses comme ça. Il se trouve que je connais Jean-Paul, je sais que c'est un journaliste qui est un reporter sérieux, qui fait des enquêtes. Je connais bien Gérard, je sais très bien que Gérard m'a raconté cette histoire plusieurs fois, et je sais que c'est le reflet de la vérité. Donc, vous imaginez.
Et c'est hallucinant, quand on lit.
Une descente, ils sont venus avec des hélicoptères. Enfin, ils étaient prêts à faire intervenir des hélicoptères, des chiens de guerre. On leur avait dit, il y a un gros bonnet d'un trafic international qu'il faut arrêter. Donc les gendarmes eux-mêmes n'étaient pas partie prenante dans l'histoire. On leur dit, ils se planquent dans l'île d'Oléron, un gros bonnet d'un trafic international, il faut aller l'arrêter. Alors qu'est-ce qu'ils font avant d'aller sauter le gros bonnet? Ils s'arrêtent chez les gendarmes du CRU. Et ils lui disent, on nous a annoncé que c'est dans le cadre d'une très grosse affaire, opération nationale, plus de 300 collègues diligentés dans toute la France. S'il n'y a pas de bavure, promotion à la clé. Alors le gendarme local lui dit, Wedlich, concerné par une grosse affaire, affirmatif, on a repéré les lieux, arrestation difficile, il se terre au milieu des bois, faudra un hélico, des chiens pour la poursuite, un maître chien. Pour mettre son chien à lui hors d'état de nuire, il a pas de chien, il faut le dire quand même. Bon, et bien sûr, on a prévu une section du GIGN. Gros poisson, faut pas lui laisser une chance de filer. Wedlich, un gros poisson, dit le gendarme local. Et dans une affaire nationale, vous dites bien Gérard Wedlich, l'ancien brigadier chef de CRS, presque un collègue. On le connaît bien, la brigade. Il était maître nageur sauveteur et infirmier. Et alors voilà. Donc, on voit bien qu'on a raconté.
Les semaines délire a eu lieu à Lyon aussi. Voilà. Ils sont arrivés cagoulés, rampant, absolument comme dans les films. Je pense que les gendarmes ou ceux qui les ont dirigés sont gavés de films intoxiqués totalement par les films.
Je pense surtout qu'on leur a raconté n'importe quoi pour les motiver. On a dû.
Non, c'est surtout ça, mais ça se fait beaucoup dans l'armée. Malheureusement, donc, c'est une des choses en France.
Bien sûr.
Chaque fois qu'il se passe quelque chose, pour motiver les troupes, on fait courir ce qu'on appelle un bouteillon.
Un bouteillon. Quoi,
et on raconte qu'il s'est passé. Alors tous les types font très attention parce que c'est très dangereux. Faut
mais donc
faire
c'est
bien.
Les supérieurs.
Bon, mais on leur a menti, mais on ne peut pas leur en vouloir.
Non,
en
non, fait, mais il ne s'agit pas d'en vouloir.
J'ai des gendarmes, pas mes meilleurs amis, ce sont des gens très bien, très remarquables. Et d'ailleurs, il faut dire que par exemple, au procès, j'ai entendu les réflexions des gendarmes disant quand même, on a rarement vu autant donner de gens dans une salle parmi les accusés. Parlons entre eux quand même, vous comprenez. Non, ce sont des braves gens, mais qu'on utilise dans leur enfant n'importe quoi.
Ce que je veux faire comprendre là, faire saisir, c'est que ces gendarmes, ils ont été gonflés, ils ont été remontés.
Tout à fait, mais c'est très dangereux parce que
qu'est-ce qui les a remontés? C'est le supérieur hiérarchique. Parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Dans la gendarmerie, on n'obéit pas à n'importe quel clampin.
Oui, oui. Et on ne peut pas envoyer 200 gendarmes sans qu'interviennent
au plus haut niveau de l'État.
Absolument,
ça s'est passé.
Tout à fait.
Donc, qui a décidé ça? Au bout de la chaîne, il y a des responsables politiques de très haut niveau. Ça a été fait avec la volonté du ministre de la Défense nationale, qui seul peut disposer de la gendarmerie, à la demande d'un de ses collègues ministres, forcément, qui peut être le ministre de la Santé. Alors, le ministre de la Santé, pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il représente les intérêts des grands laboratoires pharmaceutiques.
Tout à fait.
Pourquoi
à fait.
Représente-t-il les intérêts des grands laboratoires pharmaceutiques?
On sait très bien que les campagnes électorales
financent les campagnes électorales des gros partis. Voilà.
On le sait. J'interviens là. On leur avait même raconté qu'il y avait du plutonium à chercher sur place, qu'il y avait un laboratoire clandestin, ce qui a donné lieu à une histoire que vous avez pu lire là-dedans absolument rocambolesque. Les gendarmes brusquement, le brave type qui gardait là entend les gendarmes dire. Ça y est, chef, on l'a trouvé. Vous avez trouvé quoi? On l'a trouvé, le laboratoire secret de Beljanski. On entend quelque chose murmurer. Alors effectivement, il y avait là un petit buisson, un énorme buisson, et dans ce buisson, il y avait des oiseaux qui venaient en permanence et qui faisaient un boucan effrayant. Alors, comme ils voulaient pas tuer les oiseaux, c'est des gens gentils, des petites tapettes, etc. Excusez-moi si j'ai dit du mal des tapettes aujourd'hui, c'est très mal vu. Hein. Bon, mais donc, comme on ne voulait pas faire du mal aux oiseaux, ils avaient mis tout simplement là-dedans une espèce de petite vieille radiocassette enveloppée dans du plastique pour qu'elle ne souffre pas de la pluie, et puis qui chantonnait, qui parlait, et les oiseaux n'osaient pas s'approcher. Et c'est comme ça que nos gendarmes sont précipités là-dedans, grenade à la main, persuadés que c'était le blocos où se trouvait Grand Frankenstein. C'est aberrant.
Au-delà du côté ridicule, ça montre à quel point l'intoxication à tous les niveaux, on la retrouve. Il y a quelques jours, il y avait Mattei dans une émission que vous avez peut-être vue sur Antenne 2, je crois, au sujet des manipulations génétiques. Et il disait, il faut savoir, dans certains cas, transcender les consignes, enfin
transgresser les
règles. Ouais. Et Kouchner disait la même chose. Ouais. Mais dès qu'un malheureux médecin commande un produit à l'étranger qui est permis dans tous les autres pays de la communauté européenne, mais pas en France, il se fait taper sur les doigts. Et nous, finalement, nous n'avons fait qu'aider des gens. Il n'y a pas une seule personne qui a porté plainte. Et on nous a poursuivis, massacrés, littéralement massacrés.
Je vais vous raconter, je vais donner un petit témoignage personnel. Ça
alors
fait
c'est
maintenant 17 ans, je crois que je fais une émission, ça doit faire 15-16 ans à Radio Courtoisie. J'ai jamais été invité par personne, rien du tout. Bon, je ne cherche pas d'ailleurs. Il y a peu de temps, quelqu'un vient me voir et me dit « Monsieur Untel, qui est le propriétaire, le patron d'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques français, voudrait déjeuner avec toi. » Je dis « Ben bon, et pourquoi ? Je suis quand même pas une super vedette de la presse française. » Il me dit « Non, mais parce qu'il écoute tes émissions de temps en temps, tu parles comme il a le temps d'écouter mes émissions, il s'en fout. » Et il voudrait t'expliquer à quel point tu te fourvoies en soutenant Beljanski.
Ah, intéressant.
Voilà, alors c'est quand même extraordinaire de penser que le patron d'un grand laboratoire, hein, il n'y en a pas beaucoup, hein, était prêt à passer une heure ou deux heures avec moi dans un restaurant pour me convaincre, moi, petit journaliste tout né qui tient une émission dans une radio qui est quand même pas une radio de... On a entendu dans le monde entier, mais on a entendu par les gens qui veulent bien nous écouter, bon. Ben si, il perdait quand même son temps, il était prêt à passer deux heures. Alors j'ai répondu que non, je n'ai pas, moi, deux heures à perdre pour qu'on me remonte le bourrichon et qu'éventuellement on me fasse une proposition que je pourrais pas refuser. Mais c'est dire à quel point le sujet est sensible pour ces gens-là.
Le sujet est très sensible, oui.
Il faut interdire d'en parler.
Il y a le problème, c'est qu'il y a à peu près 30% des gens qui se soignent par des médecines qui ne sont pas les médecines classiques. Et ça représente un chiffre d'affaires énorme pour les hôpitaux. Donc, ils veulent absolument tuer tout ce qui peut donner une caution d'efficacité à des produits qui ne sont pas les produits qu'on distribue dans les hôpitaux.
Alors, il faut revenir à la... Enfin, si vous voulez faire un petit insert technique sur le sujet.
Il y a une chose
sujet.
Que je voudrais dire, c'est que, bon, finalement, ils sont obligés de reconnaître qu'il n'y a aucune tromperie, c'est-à-dire reconnaître tout de même que tous ces malades qui ont défilé, qui ont raconté leur mieux-être dès qu'ils ont pris les produits, c'est une réalité incontournable. Alors, ça, c'est tout de même une satisfaction.
Sympa, formidable. Pour.
C'est le plus important. C'est un peu amer d'être enfin ravi de ne pas être traité de charlatan, mais enfin, c'est quand même... pour moi, c'était l'essentiel de ce que cette bataille, l'enjeu de cette bataille.
Alors, on va venir à l'aspect technique, parce que je voudrais quand même en parler brièvement. Je voudrais que vous nous en parliez brièvement, mais... Franck me fait signe que Gérard est au téléphone. Il est au téléphone depuis un moment. Gérard Wiedlich.
Salut Gérard.
Bonjour Gérard.
Est-ce qu'il nous entend?
Ah, mais oui,
moi j'ai pas de retour.
Je vous appelle de mon domicile sur l'Itoléron.
Ah voilà.
Bonsoir à tous, à Monique, à Jean-Paul et puis naturellement à tous vos fidèles auditeurs que je voudrais remercier chaleureusement au passage pour leur aide active dans toute la diffusion de ce qu'on peut considérer comme le plus grand de tous les scandales de la santé publique.
Oui. Et non, c'est pas, n'exagère pas.
Je vous ai entendu là un petit moment sur tout ce que vous avez débattu. J'ai pas pris tout à fait le début, mais vos auditeurs qui deviennent de plus en plus nombreux selon mes antennes personnelles, il est utile de vous avez très bien résumé que en somme ce scandale, c'est qu'il existe déjà des traitements non toxiques contre cancer, sida et maladies graves, et que ces traitements de progrès qui agissent seuls ou en synergie avec les traitements conventionnels, dont ils diminuent tous les effets secondaires qui sont connus, eh bien, les résultats concrets sont excellents, ils sont de plus en plus nombreux, les témoignages des malades sont édifiants, sont légion, et les malades même restent dignes jusqu'à la fin de vie. Alors, lorsqu'ils décident naturellement d'utiliser les produits, des fois tardivement, parce qu'ils manquent de l'information, et encore merci à Radio Courtoisie de permettre cette information, et donc de sauver des vies humaines.
Alors, Gérard, je voudrais vous interrompre une seconde, parce que je sais que si on vous lâche la bride, on va avoir pendant une demi-heure
du tout,
célébrations. non, c'est une blague. Attendez, je vous ai demandé d'appeler pour une raison précise.
Oui.
Je voudrais vous poser d'abord une première question. Quel effet ça fait d'être le héros d'un bouquin?
Non, écoutez, je ne suis pas, j'ai pas, ce livre n'est pas fait dans ce sens-là. Ce livre, il est un hommage, si vous voulez, à aider les découvertes de Mirko Beljanski. Moi, je tiens à remercier vraiment Jean-Paul Le Perlier, que les auditeurs connaissent pour ses articles dans Minute comme exercice illégal de la guérison. Donc Jean-Paul a fait un travail extraordinaire, je tiens à le remercier publiquement. Et moi, je souhaite de tout cœur que ce livre, et je suis heureux de l'avoir depuis ce matin entre les mains, serve à la reconnaissance des concepts de Mirko Beljanski. C'est ça, mon histoire. Comme Jean Le Guen, vous savez, il y a une prochaine série de livres qui va sortir. Mmh. C'est Breton qui ne voulait pas mourir, qui sera le volet cancer de l'affaire Beljanski. Là, c'est le premier sur le dossier SIDA, du dossier Beljanski. Mais moi, l'idée de ce livre, c'est... Et je suis vraiment très très heureux aujourd'hui de l'avoir entre les mains et de savoir qu'il va être un outil d'augmenter la communication sur le sujet Beljanski, c'est son objectif premier. Le reste, le héros, il n'y a pas de... Oui, sauver des vies humaines, c'est être héroïque dans le sauvetage. Sauver d'autres vies, ensuite, par l'information, après le vécu, l'incroyable histoire que j'ai vécue, bon, tout ça, c'est vrai, quelque part, le terme est héroïque, mais je ne l'ai pas fait pour ça. Vous savez, ce dossier sommeillé, ces notes, parce que ça part, tout le livre part de notes que j'avais accumulées dans une caisse parce que je pensais à ce livre, c'est Jean-Paul qui a fait ce travail d'enquête. Et c'est vraiment, comme vous, Serge, un très très grand journaliste.
Merci.
Et je tiens à le féliciter, à le remercier pour ce livre remarquable et superbe.
Alors, je voulais vous poser quand même une autre question. Quand on voit ce qui a été votre parcours, moi j'ai découvert des choses que je n'imaginais même pas. Par exemple, la réalité, c'est un mot à la mode, hein, on parle de l'exclusion. Mais moi, je pensais réellement que, étant maître nageur sauveteur, ayant contracté cette maladie dans l'exercice de votre, j'ai envie de dire, de votre sacerdoce, et vivant dans le milieu, dans un milieu très particulier, qui est un milieu assez fermé, assez solidaire et tout, je pensais que vous auriez trouvé auprès de votre hiérarchie, auprès de vos camarades, auprès de votre entourage familial,
Serge,
un soutien.
Vous êtes naïf, Serge.
Ah, mais alors...
Écoutez, mais les fonctionnaires, l'administration, c'est un bulldozer. Vous êtes dans la difficulté, l'administration vous écrase.
Ah, mais non, mais à ce point-là...
Ils refont marche arrière, ils vous achèvent. Ah non, mais
à ce point-là, j'aurais jamais pensé. Il y a une scène extraordinaire dans le bouquin, c'est quand votre patron, enfin votre chef, je sais pas comment on dit dans ce métier-là,
le commandant,
vient vous voir et vous dit, Wedlich, vous ne serez pas à Royan cette année.
Oui, bien sûr, ça c'est le commissaire.
Le commissaire, vous ne serez pas sur la plage de Royan cette année.
Mais
pourquoi donc? Parce que le maire de Royan ne veut pas de vous dans sa ville.
C'est ça.
Mais c'est ahurissant.
Oui, et le maire,
c'est un médecin.
Et le maire de la ville de Royan était membre du conseil de l'ordre des médecins. Et d'ailleurs, il a eu dans la presse toute une immense magouille avec les laboratoires pharmaceutiques qui avaient fait la une de tous les journaux à un moment donné. Mais ce maire est toujours en place à l'heure d'aujourd'hui.
C'est incroyable.
Ah oui.
C'est vraiment une affaire. Chaque fois qu'on soulève une pierre dans cette affaire, on a l'impression de trouver dessous une espèce de cloporte.
Mais vous savez, l'arrêt du 27 septembre dernier, qui a été rendu par la Cour d'appel de Paris, là, moi je suis devenu l'homme qui vaut 5 000 euros. Cet arrêt, c'est une victoire. C'est clair que c'est une victoire parce que il n'y a plus de tromperie, il n'y a plus ces arguments-là. Maintenant, on se réjouit de n'être pas davantage condamné. Et en somme, la montagne vient d'accoucher d'une souris, puisque au départ, je vous rappelle, il y avait 95 personnes mises en examen, surtout des médecins, des pharmaciens, 95. Et à l'arrivée, il restait plus qu'une poignée de mise en examen, et sur cette poignée de mise en examen, il en reste quelques-uns qui font l'objet d'amendes, donc c'est une grande victoire. Nous, il faut maintenant que l'on amplifie. Et grâce, naturellement, je compte beaucoup sur les auditeurs de Radio Courtoisie qui font un travail énorme dans ce sens-là. Il faut qu'on amplifie tout ce message. Et le livre va être un moyen.
Toi, si je peux intervenir, c'est pas seulement une victoire pour les gens qui soutiennent Beljanski, c'est aussi une victoire pour la justice. Le premier jugement était une terrible défaite pour la justice.
Oui, tout à fait.
Et une gifle pour les malades.
Tout à fait. Non, mais il y a des choses, vous comprenez. Moi, je rejoins, il est clair, hein, que dans toutes ces découvertes importantes, moi, je rejoins totalement l'opinion de Henri Boiteux, qui est quand même agrégé d'université, administrateur pendant 12 années à l'Institut Gustave de recherche scientifique contre le cancer, et qui était directeur de recherche au CNRS en retraite. Il dit, Henri Boiteux, que Mirko, le savant Mirko Beljanski, aurait dû mériter pas un, mais quatre prix Nobel.
Oh, Gérard.
Je le dis avec force, même si Monique, vous voyez qu'il commence déjà, aura quelques observations à dire par rapport à ça, mais un premier prix Nobel à partager avec Howard Temin, qui l'a obtenu, lui, pour la transcriptase inverse d'origine virale, Mirko Beljanski a découvert la transcriptase inverse d'origine bactérienne. Un second, qui aurait dû lui revenir pour avoir découvert la manière de différencier une cellule cancéreuse d'une cellule normale. Le troisième, pour avoir découvert des produits sélectifs, non toxiques, qui s'attaquent qu'aux cellules cancéreuses en préservant les cellules saines. Et un quatrième, enfin, pour son oncotest, qui est un test fiable en cancérologie et en virologie. Alors ça, moi, je crois que c'est important. Et quoi qu'en dise, vous savez, toujours, dans le souci de modestie, les gens, plus ils sont scientifiques, importants, les vrais savants sont toujours très modestes. Mais ça, c'est une réalité.
Alors, Gérard, on va laisser la parole à Monique Beljanski, qui souffre le martyr.
Oui, non, tu sais que je déteste quand tu parles comme ça, parce que c'est tellement à l'opposé de ce que souhaitait Mirko. Tu sais, on a vécu très proche de certains prix Nobel et ça n'a pas grandi le prix Nobel. Alors, Mirko courait après des résultats, il était goinfre de résultats, ça c'est vrai. Il était très désireux d'apporter quelque chose de constructif, mais ces espèces de satisfaction et de hochet pour frustrer, non, c'est pas ça du tout dont il avait envie et c'était pas son but dans la vie. Alors cesse de parler des prix Nobel, s'il te plaît.
Faudra inventer un prix spécial. Alors.
Bon, mais en attendant, on a bien commis en France un assassinat prémédité. Et vous savez, Serge, il y a deux jours, c'était le 28 octobre.
Ouais.
Et cela faisait 4 ans que Mirko Beljanski nous a quittés. Et moi, cette journée-là, j'avais, comme on dit, le bourdon. Je suis allé me recueillir dans ma petite église de Dolus devant une bougie, à la mémoire de celui qui m'a sauvé la vie. Et c'est honteux que ce chercheur, ce grand savant, soit mort d'offense dans l'indifférence médiatique totale, après un harcèlement, une persécution ignominieuse, dans une démocratie qui est moribonde. Et moi, je suis vraiment content qu'il existe encore des journalistes comme toi, Serge, et puis comme Jean-Paul, pour faire des émissions comme le Libre Journal ou des livres comme vient de faire paraître Jean-Paul.
C'est un livre superbe.
Gérard, à bientôt. On refera une émission dans quelques temps un peu plus approfondie sur le sujet qui vous passionne.
Tu rappelles le téléphone associatif?
Oui, bien sûr. On rappellera tout ça.
Pour que les gens puissent obtenir des informations complètes là contre deux carnets de litin.
Entendu.
05 46 75 39 75.
Il n'a pas confiance, il pense 05... que je ne
sais
pas.
Il faut bien le donner.
Et c'est le CIRIS.
Il y a un répondeur des bénévoles qui répète inlassablement toujours la même litanie. Envoyez les deux carnets de timbres, vous recevrez toutes les informations.
Le plus gros trafiquant de timbres de l'ouest de la France.
Ouais, c'est ça.
À bientôt, Gérard. Enfin.
Merci.
Ah voilà, c'est un personnage quand même. Alors, moi j'aime beaucoup Gérard parce qu'il y a cette fougue extraordinaire. Puis enfin, ça fait des années que ça dure, cette spontanéité. Et alors, le bouquin, c'est ça, la dimension formidable du livre, c'est que ça fait comprendre ça. Ça fait comprendre à quel point cet homme est, Et non, vous n'êtes pas forcé de mettre le casque. S'il vous gêne, vous pouvez.
Il faut pas le poser sur la table, il faut l'accrocher.
Il a cette. On comprend à quel point cet homme a dû être très profondément blessé par ce qui lui arrivait.
Tout à fait.
Il avait l'impression de faire d'accomplir un devoir, une mission. Il faut dire qu'il y a, c'est raconté dans le livre, dans sa vie personnelle, un drame qui l'a amené à avoir cette attitude constante de solidarité.
Oui, c'est vrai que alors qu'il avait, il avait commencé à faire du secourisme, et un jour sa mère, qui avait de l'asthme, a eu une crise. Je sais qu'il va peut-être pleurer quand il va entendre ça, parce qu'il n'a jamais pu me le raconter sans avoir les larmes aux yeux des années après. Sa mère avait une crise d'asthme. Ils ont appelé le médecin, qui a mis plus d'une heure pour arriver. Entre temps, lui, qui avait fait du secourisme, qui était très fier de son savoir, a essayé de faire respirer sa mère. Il n'y est pas parvenu, et sa mère est décédée dans ses bras. Ce qui, en quelque sorte, a décidé toute la vie d'un homme qui a passé son temps, et c'est une belle chose, déjà, cette fidélité à un événement de sa vie. Il a passé son temps à faire de la respiration sur les plages au noyé. Et à chaque fois, on lui disait, mais arrête, Gérard, si tu vas trop loin, Gérard, il n'y a aucune chance, Gérard. Alors, j'ai lu des lettres, des témoignages, et il y en a certaines dans ce livre, dans l'histoire de la petite Karen, par exemple,
anglaise,
où les amis disaient, mais arrête, tu n'as aucune chance. Et au bout de trois quarts d'heure, Karen est encore vivante, alors qu'effectivement, il n'y avait aucune chance.
Ouais.
Mais quand Gérard ne parvenait pas à sauver un noyé, il en était malade pendant plusieurs jours, c'était pour lui un échec terrible, il passe sa vie à ça, il attrape le sida, donc en sauvant un noyé, parce que le noyé n'était pas rasé, et qu'il se blesse pendant trois quarts d'heure sur ses lèvres pas rasées, le noyé vomissait du sang.
Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que il contracte la maladie avec une brutalité extraordinaire, puisque le lendemain de la tentative.
Le lendemain, il a surtout une explosion d'herpès.
Une explosion d'herpès,
tout à fait.
Et puis très très vite, ça
continue à se dégrader. Et c'est en faisant un don de sang qu'il a fini par apprendre d'un seul coup. On lui dit sans ménagement,
Alors lui, un père de famille
de quatre enfants, un athlète, un ascète, découvrir ça.
C'est un passage terrible du bouquin.
Ça a été absolument terrible.
Parce qu'il raconte qu'il est convoqué, enfin Jean-Paul raconte que Gérard est convoqué par le médecin de service, en quelque sorte, de son administration, et il entre dans un bureau glacé avec une femme qui le regarde d'un air absolument froid et qui lui dit « Vous avez le sida ». Et voilà.
Et aussitôt, des questions les plus humiliantes.
Oui, alors naturellement, est-ce que vous êtes homosexuel, drogué,
etc. Voilà. Il a compris que non seulement il avait le sida, mais qu'il rentrait dans le monde de l'exclusion.
C'est un formidable témoignage de la réalité de cette maladie, d'une part. Ensuite, de la réalité d'un système qui, médiatiquement, on passe son temps à célébrer les restaurants du cœur, les machins, les artistes.
Justement,
qui font des choses et tout.
Il y a un hiatus absolument extraordinaire entre cette sensiblerie,
sensiblerie
et le manque de sensibilité.
Voilà. Par exemple, un soir, il arrive à s'introduire dans un dîner où Kouchner qu'il essaye de parler à Kouchner depuis longtemps.
S'il était encore au bout du fil et qu'il puisse nous raconter son entrevue avec Kouchner, que je n'ai pas raconté totalement dans le livre, c'était absolument extraordinaire, la gêne de Kouchner, ne sachant plus où se mettre devant Gérard.
Dans le bouquin, c'est très bref, mais c'est très bien raconté. Quand Kouchner est en train de baffrer, il lève sa tête, il voit arriver Gérard, qui s'est accompagné de Maître Otis, et il lui dit « Ah, voilà l'emmerdeur !» dit Kouchner. Il a devant lui un maître nageur sauveteur qui a contracté une maladie terrible en sauvant des vies humaines,
qui cherche à en sauver d'autres,
qui veut en sauver d'autres en plus, et tout ce qu'il va dire, c'est « Ah, voilà l'emmerdeur !» C'est quand même... Parce que l'autre est la présence de Gérard l'empêche de savourer sa platée de caviar.
Non, parce qu'aussi, ils sont déjà rencontrés à la télévision.
Mais
enfin, comment peut-on ne pas mépriser des gens comme ça? Et je dirais mépriser, le mot est faible. C'est quand on pense aux cinoches qu'ils font quand il est allé porter ses sacs de riz, de pantin. Et quand il est en face d'une véritable souffrance, il se débine.
Oui.
Et il se débine en s'abritant. Alors en plus, après, il y a l'attitude de l'administration qui dit « Oh là là, mais attendez, votre sida, oh, c'est pas prouvé du tout que vous l'avez attrapé en sauvant des noyés. Hein, oh là là, il faudrait quand même... » on sent tout ça. Il y a le fric derrière. Il y a un type derrière, un fonctionnaire, qui dit « Attendez, l'administration ne va pas payer. Il faut éviter ça. »
Si on payait pour lui, on risquait de payer pour beaucoup d'autres. Parce que, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire, ce n'est pas seulement une maladie de PD et de drogués. Énormément de pompiers ont attrapé le sida en se blessant sur des tôles découpées, sure, des voitures où les gens avaient saigné. Oui. C'est d'ailleurs expliqué
là-dedans. C'est raconté. Là-dedans, là, il y a un épisode dans le bouquin formidable. Les pompiers qui sont intervenus sur un accident où 4 jeunes se sont tués en voiture, ils ont désincarcéré les jeunes, ils se sont blessés. Et le lendemain, on découvre qu'un des jeunes avait le sida. Et à partir de ce moment-là, ces pompiers, qui étaient considérés comme des héros locaux...
Personne ne leur adresse plus la parole. Plus on refuse les... même de les appeler en cas d'incendie. L'un d'entre eux qui devait se marier a dû renoncer à son mariage.
Voilà. C'est incroyable. Voilà, mais ce qui est invraisemblable, c'est qu'un pays qui dépense tellement d'argent pour sa santé, devant l'afflux de témoignages, n'a jamais eu l'idée que ça pouvait être non seulement une solution humaine, mais aussi une solution financière.
Mais c'est parce que les gens qui gagnent leur vie, la mafia qui fait des milliards avec ça, elle rétrocède une partie de ce fric à des gens qui ont des responsabilités politiques. Oui, c'est ça, bien, la vérité. Et donc, c'est uniquement... Ces gens sont des gangsters. C'est une mafia qui a à son service des hommes de main politiques. Et les hommes de main politiques passent à tabac les braves gens qui essayent d'empêcher la mafia de gagner du fric. C'est une caricature de la vie de la mafia.
Non, c'est même pas une caricature. Malheureusement, enfin, c'est même pas une caricature.
C'est une réalité.
Alors,
oui,
on va donner la parole au...
Attendez, oui. Non, avant, je voulais quand même venir à l'essentiel du livre qui, pour moi, va plus loin que d'accuser la mafia, ou même qui va plus loin que la très belle histoire de Gérard Willich, qui est vraiment un héros des temps modernes, quelle que soit sa modestie, s'il a fait souffrir, mais c'est quand même vrai. Moi, j'étais enthousiasmé par ce type. Toi aussi, je crois à cette lecture.
Ah oui, oui.
Bon. Mais non, pour moi, l'essentiel de ce livre, c'est que c'est quand même d'abord un livre d'espoir, qui apporte la preuve que voilà quelqu'un qui, au début, il a le sida. Il est vraiment condamné. Il n'y a aucun médicament à l'époque et il se bat comme un chiffonnier pour survivre. Il pénètre, profitant de cette nuit de CRS, comme je raconte là-dedans, pénètre chez les grands chercheurs, qui veulent voir. Et puis là, il leur pose des questions, voilà, pour savoir. Il réussit à voir pendant des heures montagnier, ce que personne ne peut rencontrer quand même.
Mais Goudot, il va le voir en lui disant, je dois faire un topo.
Oui, tout à fait, sur le sida. Pouvez-vous me raconter, etc. Enfin, je veux revenir à l'essentiel quand même. Hein. Voilà. C'est pour moi, je voudrais que c'est ça le but de Steve quand même, c'est de montrer que quand on croit que tout est perdu, si on se bat vraiment, il y a toujours une solution. Mais il faut prendre sa santé en main. Il faut se battre. Il faut y croire. C'est ce qu'il a fait. Et finalement, il est tombé sur Beljanski. Il a essayé le tout premier, les molécules de Beljanski. Il a sauvé sa vie. Il a eu des rechutes. Parce que parfois, un médicament devient efficace quand il est par erreur mélangé avec d'autres. Parfois, des stress terribles sont extrêmement destructeurs également. À chaque fois, il a recommencé le combat. Et aujourd'hui, 17 ans, 18 ans après bientôt, il est toujours là, en super forme, un petit peu trop gros, parce qu'on peut reprocher au produit de Beljanski de faire un peu grossir. C'est la seule chose qu'on peut dire. Enfin, il est en super forme quand même, voilà. Hein.
Ouais.
Au bout de 18 ans. Alors, ce que je voudrais que les gens comprennent
en lisant ce livre... Il n'est pas le seul non plus dans ce cas-là.
Ce livre, bien sûr, mais parce que dans ce livre, il y a également d'autres témoignages, y compris de cancéreux. Et le prochain livre de cette collection sera un livre donc sur le volet cancer de l'affaire Beljanski, qui prouvera que des gens dont le héros, le premier dont je parlerai, Jean Le Guen, voilà des gens qui sont dans le coma. Dans le coma, la femme de Jean Le Guen va voir le médecin qui dit rien à faire et elle lui dit mais vous ne tenteriez pas quand même quelque chose si c'était votre propre fille, votre propre fils. Elle se bat et finalement elle parvient à ce qu'on lui fasse des traitements, mais elle, pour qu'il supporte mieux ces traitements qui auraient été impossibles autrement, lui introduit des produits Beljanski alors qu'il est dans le coma. Et il est encore là, 17 ans après aujourd'hui, en super forme, vous comprenez, alors qu'il était en train de mourir. Il y a toujours un espoir. Je voudrais que les gens comprennent. Si on se bat, si on
peut
cherche...
dire quand même que vous savez de quoi vous parlez.
Oui, puisque moi-même, j'étais condamné, j'avais 3 mois à vivre, il y a de ça, bientôt, il y aura 2 ans et demi. J'avais vraiment 3 mois à vivre. C'était j'avais été fait donner par relation le nom du plus grand spécialiste de France de ce que j'avais. Et quand le plus grand spécialiste de France, qui connaît absolument tous les médicaments, puisqu'il est le plus grand spécialiste, toute la pharmacopée possible, me dit, non mais attends, moi j'ai ça, j'entends.
Oui, mais on...
Me dit, vous n'avez que 3 mois à vivre, c'est qu'il en est certain, compte tenu de ce que tout le monde connaît, sauf les produits Beljanski. La seule chose que j'ai introduite, moi, que personne ne connaissait, c'est les produits Beljanski. Alors, pour quelqu'un d'un quotient intellectuel normal, je vous pose la question, qu'est-ce qui a pu me sauver, sinon les produits Beljanski? Alors aujourd'hui, je suis là. Effectivement, je ne sais pas si je vivrai centenaire, mais j'ai vécu... en tout cas, j'ai gagné plus de 2 ans, c'est sûr.
Et
je me sens
frère de famille,
je me sens vraiment très bien, hein, et je ne peux dire qu'une seule chose. J'ai, après avoir interrogé plus de 3800 personnes qui ont sauvé leur vie avec les produits Beljanski, eh bien, j'ai continué l'expérience sur moi-même sans l'avoir choisi, et je constate que ça a parfaitement marché. Voilà. Alors moi aussi, je suis extrêmement reconnaissant comme Gérard.
Alors on va donner la parole aux
auditeurs. Il y a quelque chose dont j'aurais voulu parler quand même, qui est quand même tragique. Parce qu'on parle aussi de l'aspect extraordinaire de l'être humain, qui n'est pas toujours brillant. Bon, très bien. Or, il y a le problème des gens qui, quand ils ont vu cette affaire Beljanski, quand ils ont vu qu'on attaquait Beljanski, se sont dit, mais non, d'un chien, s'il arrête de faire des produits qui marchent si bien, il y a peut-être de l'argent à faire.
Oui.
Alors, un peu partout en Europe, il y a des gens qui se sont mis à faire du faux produit Beljanski. Alors, je me suis fait donner, là, j'ai pas les notes, là, j'en parlais dans le prochain bouquin, je me suis fait donner le détail du travail qu'il faut à partir des éléments de base qu'on va prendre sur un arbre, qu'on va chercher, il y en a plein de différents, il faut trouver le bon dans la forêt amazonienne. Le détail du travail qu'il faut faire pour sortir quelques grammes d'un produit extraordinaire, mais n'importe qui peut prendre le même arbre, râper un petit peu ça avec une râpe à fromage, mettre ça dans un petit tube, et puis dire voilà, c'est du Pao Pereira. Ça sera la vérité.
C'est ce qui se passe.
Mais ça ne guérira personne.
Ouais. C'est ce qui se passe.
Alors il faut quand même, dénoncer ça, parce qu'autour de ça, il y a des gens qui en ont profité pour faire... et qui, eux, sont vraiment des escrocs. Et l'extraordinaire, c'est que comme eux ne gênent pas, puisqu'ils ne guérissent personne, le groupe de ces industriels de la chimie-pharmacie, ils ne sont pas poursuivis, ces gens-là. Ils peuvent continuer. Pour eux, ils n'auront jamais de problème.
C'est fabuleux. Madame Victoria, vous avez la parole.
Gros paquet de messages. Serge de Beketch a-t-il raison de se lancer dans le sillage de Beljanski, car cela paraît trop miraculeux. Serge de Beketch cite toujours le cas de M. Wedlich. Or, on ne peut pas faire d'un cas une généralité. Produits Beljanski sont très chers et on ne peut pas se soigner.
Mais je voudrais répondre sur ce point.
Sur le premier aspect.
D'accord.
Un journaliste a toujours le droit de parler des sujets, a toujours raison de parler des sujets qui gênent, qui fâchent, qui énervent et qui déplaisent. Ça, c'est son boulot.
Oui.
Si c'est pour de parler que des choses qui font plaisir à tout le monde, il vaut mieux qu'il
fasse. Je voudrais répondre à cette personne que ça paraît miraculeux, et c'est parce qu'il a entendu le début de l'émission quand je l'ai dit, mais je le répéterai. J'ai commencé cette enquête contre Beljanski, justement parce que ça paraissait impossible qu'on puisse, avec les mêmes molécules, guérir le cancer et le sida. J'ai tout fait pour prouver que Beljanski est un escroc, et j'ai fini par rencontrer à peu près 3800 personnes guéries qui devraient être mortes aujourd'hui, et j'ai dû changer d'avis, bousculé par quelque chose contre quoi je ne pouvais rien faire. On ne peut pas, contre autant de malades guéris, dire quelque chose. Quand je pense qu'on guérit même des chats, on peut même pas dire que c'est un aspect psychosomatique, comprenez ? Alors non, effectivement. Et puis quand j'ai fini quand même par me guérir moi-même alors que je devrais être mort aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire d'autre ?
Alors quant à la dernière observation, enfin l'observation, on parle toujours de Wedlich, moi je parle de Wedlich parce que je le connais, parce qu'il vient...
D'ailleurs moi qui parle aujourd'hui, je ne suis pas Wedlich.
Il y a plusieurs milliers de malades
un personnage emblématique
qui ont témoigné.
Mais Jean-Paul Le Perlier vient de signaler que lui-même a rencontré personnellement 3800 malades guéris, il n'a pas rencontré tous les malades qui avaient été traités et guéris. Donc,
c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a eu, quand ces produits ont été interdits à une époque, il y a eu des manifestations dans Paris avec des avenues entières qui étaient bloquées par des malades, avec des calicots,
des
en réclamant leurs produits Beljanski, réclamant le droit de choisir leurs produits dans une démocratie, de se soigner comme ils le voulaient, quand même. Donc, et alors, à chaque fois, j'étais là avec mon petit micro, puis je prenais des noms, puis après, je joignais par téléphone. Et à chaque fois, j'entendais la même chose. Ben oui, je suis venu témoigner parce que je suis vivant grâce aux produits Beljanski. Et bien, à contrario, il y a aussi des gens à qui on a retiré leurs produits à cette époque-là, et qui sont morts parce qu'on leur a retiré les produits Beljanski et qui vivaient avant. C'est bien la preuve que c'était les produits qui les laissaient en vie.
Autre question.
Concernant le procès Beljanski, où Act Up a eu le culot de se porter partie civile, rappelons que M. Philippe Mangeot, ex-président d'Act Up, est le fils de M. Mangeot qui dirige les laboratoires GlaxoWelcome qui ont l'exclusivité de la trithérapie AZT.
Oui, ceci explique cela. Ils ont d'ailleurs changé maintenant de PDG. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que lors du procès, l'avocat de Aide, je crois, ou de Act Up, il a dû faire un lapsus parce qu'il a dit, oui, nous reconnaissons que nous avons tué beaucoup de malades au début avec l'AZT, mais ils sont morts docilement. Je me suis dit, c'est pas possible que j'ai entendu une phrase pareille. Je demande à mon voisin. C'est pas ça qu'il a dit. Si, c'est ça que j'ai entendu. Alors, je pense que...
C'est extraordinaire.
Ça. Oui, je pense que... Alors, c'est pour ça que Gérard après a dit, mais moi, je n'ai pas voulu mourir docilement.
Et c'est pourquoi on l'appelle aujourd'hui
un malade
sur
illégal.
Un survivant illégal, parce qu'ils sont morts légalement. Et lui, il a survécu de manière illégale.
Les AMM sont accordées.
Autorisation de mise sur le marché. Hein,
c'est ça. Les autorisations de mise sur le marché sont accordées sur un dossier d'expérience fourni par les laboratoires pharmaceutiques et ne sont pas contrôlées par l'administration.
Oui, c'est pas tout à fait.
Un peu plus compliqué que ça, c'est, d'une part. Et d'autre part, il y a des choses que je peux pas dire au micro quand même, parce que ça provoquerait des ennuis trop graves à la radio. J'en ai pas envie. Mais je ne dis pas qu'un jour je ne publierai pas quelque chose sur les autorisations de mise sur le marché et sur la façon dont elles sont...
Non, mais il y a quand même quelque chose d'officiel, je pense.
Tout le monde sait que les experts sont payés et financés en des intérêts dans l'industrie pharmaceutique, et ce sont des experts qui servent les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Donc, ceci explique cela.
C'est exactement ce que je voulais dire. Il publie tout à fait légalement, c'est-à-dire une décision qui existe depuis Kouchner, on peut le remercier pour ça. Il publie ce qu'on appelle des déclarations d'intérêt, en disant chaque année combien ils ont touché d'argent, qui correspond à beaucoup plus que leur salaire réel, versé par les industries pharmaceutiques, alors que ce sont eux qui prendront la décision après d'autoriser ou non la mise sur le marché de leurs médicaments.
Comment expliquer qu'aucun ponte de la médecine ne soit venu témoigner en faveur des produits belges?
C'est une erreur. Il y a eu au tribunal des savants, savants de renommée internationale qui sont venus de l'étranger pour dire « Je ne viens pas témoigner pour M. Beljanski, je viens devant ce tribunal pour lui rendre hommage ».
Et puis ceux qui ne sont pas venus, c'est absolument clair.
Enfin, c'est, on vient de donner l'explication. C'est un système où les gens se tiennent, ils ont peur les uns des autres.
Quand on connaît la puissance économique des laboratoires pharmaceutiques, quand on connaît l'énormité des cadeaux qu'ils font, enfin maintenant ça s'est un petit peu calmé, c'est devenu moins voyant, mais il faut dire que pendant des dizaines d'années, des médecins sont partis en voyage autour du monde aux frais des laboratoires. Donc,
dans le livre que j'ai écrit, la fatwa...
Chronique d'une fatwa scientifique.
Chronique d'une fatwa scientifique. Je raconte que, par exemple, un chef de service de l'Institut Pasteur est venu nous voir en disant « Je ne peux plus être ami avec vous parce que je ne veux pas déplaire à Jacques Monod ». C'est vous dire que même à ce niveau-là, les gens n'ont plus aucun arbitre, aucune liberté.
Est-ce que le jeûne est une technique pour maigrir qui a besoin de l'autorisation des autorités médicales? J'espère que...
Non, mais c'est pas absolument certain, parce qu'il y a des interventions, il y a eu des cas où on a nourri de force des gens qui ne voulaient pas se nourrir. Donc c'est pas pour maigrir, mais je veux dire, il faut bien comprendre qu'on est entré dans un système, dans une dictature molle, hein, une dictature soft dictature, comme on dit, et que on n'a plus la liberté de faire n'importe quoi. J'ai l'autre jour un jeune homme qui est venu me voir, enfin un jeune père de famille qui est venu me voir avec une lettre de l'administration, parce que son fils avait manqué l'école 3 ou 4 fois et que l'administration le menaçait de poursuites.
Bah, écoutez, les vaccins ou la pilule qu'on donne sans l'autorisation des parents.
Voilà.
C'est...
La pilule, oui, dans les lycées, qu'on donne aux... que les infirmières médicales, les infirmières scolaires donnent aux lycéennes sans l'autorisation des parents, et même en dépit de l'interdiction des parents.
Et les vaccins, c'est pareil.
Deux messages concernant le professeur Israël. Une auditrice: j'espère que le professeur Israël va enfin reconnaître l'existence des produits Beljanski qu'il prétendait ignorer lors d'une émission sur Radio Courtoisie, ce qui m'avait particulièrement choqué et interrogé. Et un auditeur: il y a un an ou deux, le professeur Israël a déclaré sur Radio Courtoisie que les produits Beljanski, s'ils ne faisaient aucun mal, n'apportaient aucun remède réel au cancer lourd. Il a parlé de médicaments de confort.
Bon, écoutez, il est libre de dire ce qu'il veut. Sa parole n'a pas plus de poids que des milliers de malades.
J'appelle un cancer lourd, un cancer qui devait me tuer en 3 mois, alors qu'on m'avait dit, vous allez combien, 3 mois d'enfer, m'avait-on dit. Hein. J'ai commencé à avoir quelques douleurs violentes, et j'ai pris les produits Beljanski. Effectivement, je suis très confortable, j'ai complètement arrêté d'avoir mal, et puis, mais surtout, j'ai plus rien quand même. Enfin, a priori, je suis toujours là, j'ai gagné des années, alors c'est pas vrai. C'est faux.
Comment se fait-il, puisque M. Boiteux, qui était si bien introduit à Villejuif, comment se fait-il que cet hôpital ne soigne pas maintenant ces malades avec les produits Beljanski?
Il était en retraite au moment où il a été touché par cette maladie.
Et puis M. Boiteux n'a pas tous les pouvoirs non plus. Hein. Le malaise... Mais je lui rends hommage parce que je trouve que, à son âge, c'est un homme extrêmement courageux et qui est capable de beaucoup de reconnaissance et qui se démène beaucoup pour la reconnaissance des produits de Mirko Beljanski.
Et puisqu'on est là pour parler du livre, excusez-moi.
Et moi, je lui suis beaucoup de gratitude.
Puisqu'on est là pour parler du livre, je voudrais dire que la dernière partie du livre est faite du témoignage de Monsieur Boiteux devant le tribunal. Il a envoyé un très beau témoignage qui représente une cinquantaine de pages dans le livre.
J'en ai pas parlé,
c'est
mais
extrêmement
y a
intéressant,
c'est courageux,
y compris pour les scientifiques qui liront ce livre.
Il y a une petite partie technique qui est fort bien faite. Il y a des photographies.
Oui,
qui sont intéressantes.
Oui, il y a
des photographies émouvantes parce que on voit Wedlich en 79, tout jeune maître nageur. Pardon. Et puis, on le voit photographié pendant un sauvetage, notamment. Enfin, et puis, on voit les photos de Mirko et Monique Beljanski. Et à la fin, il y a donc, effectivement, une liste complète des travaux. Alors, ça, c'est à l'usage de ceux qui disent que Mirko Beljanski n'était pas un scientifique. Il y a la liste des publications scientifiques, les 135 publications, et les spécialistes, les médecins et les savants, les scientifiques, savent ce que c'est qu'une publication scientifique. C'est pas simplement quelqu'un qui écrit des gribouillis sur un bout de papier, c'est quelqu'un qui écrit quelque chose que une revue scientifique accepte de publier, c'est-à-dire accepte de cautionner.
Tout à fait.
Voilà.
Non, puis il était invité dans tous les congrès mondiaux d'oncologie, c'était un savant reconnu, mais surtout hors de France.
François Mitterrand, qui a pris les produits Beljanski, est tout de même mort. Mais il a été prolongé de nombreuses années.
Ben oui,
c'est exact. Mais moi-même, je suis persuadé que je mourrai un jour.
Oui, c'est probable.
120-130 ans, même, je ne sais pas. Mais bon, ben, évidemment.
Le malade peut décider de prendre ou de ne pas prendre les médicaments que le médecin lui ordonne.
Il faut dire que jusqu'à présent, dans l'histoire du monde, il y a une personne qui n'est pas morte. C'est la Sainte Vierge. C'est la seule personne qui n'est pas morte. Parce que même le Christ est mort, il est ressuscité, mais d'abord, avant de ressusciter, il est mort. Donc il faut quand même statistiquement prévoir, j'annonce la mauvaise nouvelle aux auditeurs d'une façon un peu brutale, mais qu'est-ce que vous voulez, il y a des moments où il faut parler durement, il faut prévoir qu'on a quand même statistiquement un gros pourcentage de chances d'y passer. Même si on prend les produits Beljanski tous les jours.
Oui, il y a quelque chose que je voudrais dire aussi, c'est que très souvent des gens m'appellent à la suite des témoignages que j'ai pu faire en me racontant leur maladie, etc. Et on me dit, oui, je vous appelle à propos de ma sœur et c'est pas qu'elle est malade. Moi, je suis persuadé que si Napoléon était parti en guerre sans savoir quelles armées l'attendaient et où, il aurait perdu toutes ses guerres. C'est pareil quand on est malade. Il faut avoir le courage, c'est ce que j'ai essayé de faire, de regarder la mort en face et de savoir ce qu'on risque, mais de savoir aussi qu'il existe des chances et de se battre et de s'en sortir. Mais quand un malade ne sait pas, comment voulez-vous qu'il se batte? Et ça, c'est, je voulais dire aux gens, faut pas hésiter à le dire. Et les gens réagissent beaucoup mieux qu'on imagine. Je pourrais même dire, à titre personnel, que la mort est une compagne qui n'est pas désagréable, parce que ça vous donne le goût de la vie. Beaucoup de gens, si on pense à Saint-Exupéry, en train de mourir dans son désert, et qui disait, j'ai failli mourir de soif, mais j'ai appris le goût d'un verre d'eau que beaucoup de gens ne connaîtront jamais. La proximité de la mort vous donne une joie de vivre extraordinaire. Et les 2 ans de plus que je dois jusqu'ici à Beljanski ont été 2 ans qui, au point de vue bonheur, au point de vue intensité, que je lui dois aussi, ont dépassé tout ce que j'ai connu jusqu'ici. C'est donc un bon pari que de dire aux gens, voilà où tu en es, il y a des chances, tu peux te battre, mais il faut le savoir.
Et c'est très intelligent, en adulte aussi. Ouais, parce que
je peux parler d'une petite expérience personnelle, c'est que la période la plus effroyable, c'est quand on ne sait pas ce qu'on a, quand on sent qu'on est gravement malade, parce qu'on est épuisé, qu'on ne peut plus bouger et tout, et que les médecins tournent autour de vous en vous regardant sous tous les angles. Mais moi, je me souviens, quand je suis venu dans le bureau, le médecin m'a appelé dans son bureau et m'a dit, voilà ce que vous avez. J'ai été soulagé, car j'ai dit, maintenant, je sais enfin contre quoi je vais me bagarrer. Alors qu'avant, je ne savais pas. C'est une impression épouvantable de savoir qu'on a un ennemi, mais de ne pas l'identifier. Une fois qu'il est identifié, on dit, on va y aller, on va lui rentrer dans le chou. Il y en a un des deux qui se fera casser la gueule. Je ne sais pas si ça sera moi ou ça sera lui. Mais en tout cas, il y en a un qui restera sur le tapis.
Et sur le même... sur le
on
même...
peut pas, ça, si la personne ne sait pas ce qu'elle a.
Sur le même plan, c'est une des choses qui m'ont été le plus pénible, c'est de ne pas savoir qui tirait les ficelles contre nous.
Oui.
On n'a jamais su. C'est toujours des on dit, ça se passe
des silences, des retraits.
Voilà.
Pour en venir au livre, on donc raconte que Gérard, un beau jour, s'entend dire par un médecin, parce qu'il montre à un médecin des analyses sans dire que ce sont les siennes. Mmh. Le médecin regarde les analyses, il dit, écoutez, d'après ces analyses, la personne en question devrait déjà être morte ou va mourir dans les mois qui viennent. Or, ce sont les siennes.
Ouais.
Et lui, sa réaction, c'est de dire, je serai toujours reconnaissant à ce professeur de m'avoir dit ça, parce qu'une fois de plus, je pouvais partir au combat et savoir contre quoi je me battais. Voilà. Et c'est vrai que c'est important. Et moi-même, quand je me suis fait donner par relation le meilleur spécialiste de France, j'ai dit, écoutez, voilà, moi je vous demande une seule chose, je veux savoir. Et on m'a dit, 3 mois. Et ben, j'ai dit, d'accord, on va voir. Et c'est très important de savoir.
Puisque les malades prennent en même temps des produits classiques contre le cancer, comment pouvez-vous attribuer la guérison ou la rémission aux seuls produits belges?
Dans mon cas précis, quand je vois le meilleur professeur de France à l'hôpital Léopold Bellan, qui s'appelle le professeur Jean Denis, on m'a dit que c'est le meilleur spécialiste, c'est un de mes amis qui m'a eu ce renseignement par le ministère de la Santé, et que le meilleur spécialiste vous dit, compte tenu de tous les médicaments connus aujourd'hui, vous avez 3 mois à vivre, et que le seul médicament que j'ajoute est le produit Belgianski. Si la personne qui dit ça a un minimum de caution intellectuelle, la réponse, elle la connaît déjà. Il n'y en a pas d'autre possible.
Et puis, il y a le témoignage de Monsieur Boiteux. Monsieur Boiteux dit, j'ai pris des produits normaux, entre guillemets, et des produits Belgianski. J'ai arrêté les produits normaux.
J'ai arrêté les produits Belgianski.
J'ai eu une rechute. J'ai repris les produits Belgianski. Je me suis maintenu. Bon, eh bien, l'explication, et je voulais pour un...
Mais cela dit, il ne faut surtout pas interrompre les médications officielles pour prendre des produits Belgianski. Personnellement, je pensais prendre aucune médication. Madame Belgianski m'a dit, je vous conseille de les prendre maintenant que vous prenez nos produits. Au contraire, ça devient impossible, parce qu'il y a une sorte de, je trouve jamais le mot,
de synergie
entre les produits Belgianski et la médecine officielle, notamment une légère radiothérapie ou une chimiothérapie détruisent l'équilibre des chromosomes, vous direz ça mieux que moi, et les produits Belgianski pénètrent 2 fois mieux, mais aussi certains produits Belgianski permettent d'aller beaucoup plus loin dans la radiothérapie, parce qu'ils permettent de se protéger contre les effets nocifs des rayons.
Dans le cas des malades atteints de sida, il n'y a pas eu d'autres médicaments.
Wiedlich n'a pris que en monothérapie des produits Belgianski et rien d'autre.
La trithérapie, c'est un...
Tous les malades traités pour le sida n'ont pris que ça.
Voilà. Alors qu'il avait quand même un sida déclaré, c'est-à-dire qu'il était déjà rentré dans le dernier stade quand même.
Francine Boquet avait à la fois le sida hépatite par transfusion et l'hépatite C. Ouais.
Par transfusion,
et ça fait aussi,
son cas est également dramatique.
Ça fait aussi 15-16 ans.
On en parle
dans le livre.
Dans l'émission, on l'a raconté. Comment les gendarmes sont arrivés chez elle, l'ont emmené, l'ont gardé en otage pour faire venir son mari, qui a été arrêté à son tour, alors qu'elle avait été victime du sang contaminé.
Oui.
Elle avait contracté avec une transfusion de sang contaminé le sida et une hépatite C. Enfin, on pense à cet État qui a été capable de laisser circuler des produits sanguins contaminés qui ont tué des milliers de gens et qui, mobilise la gendarmerie pour empêcher les gens que l'État lui-même est en train d'assassiner de se soigner avec les produits de leur choix.
Ah, c'est inouï.
Mais comment on peut ne pas descendre dans la rue avec des faux? Enfin, c'est...
Les malades sont quand même descendus dans la rue, pas avec des faux, mais pour réclamer leurs produits. Il y en a eu des milliers à Paris, il y en a eu des milliers à Lyon, et j'ai suivi toutes ces manifestations à l'époque, j'ai fait un reportage.
Et ça n'a même pas fait un trait de plume dans la presse.
Non, bien sûr. Pour les mêmes
En matière de presse, je vous dis, dans ces cas-là, hein, quand il s'agit des jugements, il y en a eu plusieurs à l'ordre des médecins. Je constatais que j'étais tout seul. Il n'y avait personne, ça n'intéresse pas, ça n'empêche pas d'écrire la presse,
il n'y a pas
sur place. Oui, il y a aussi une énorme paresse des journalistes qui restent au bistrot du coin, puis qui rentrent au journal, puis qui lisent les publications de l'agence France Presse, puis qui font leur article. On appelle une agence de photos, on se fait livrer quelques photos, puis on a gagné son salaire.
Exemple que je cite toujours, c'est ce grand journal qui pratique le choc des images et qui avait osé publier les photographies du mariage d'une des filles de Jean-Marie Le Pen, et le propriétaire du journal rencontre dans un dîner un type qui lui dit, je vous signale que je viens de vous faire sauter 70 millions d'achats d'espace. Pourquoi, dit le propriétaire de Paris Match, parce que vous avez passé des photos du mariage de la fille Le Pen et moi je finance pas les journaux qui font de la pub à Le Pen. C'est comme ça qu'après
le rédacteur
en chef de Paris Match a reçu l'ordre de ne plus jamais publier aucune photo people, comme on dit, sur ce dont je me contrefous d'ailleurs, c'est pas le problème. Oui. Mais là, voilà comment ça fonctionne. Donc, il est évident, quand le propriétaire d'un grand laboratoire pharmaceutique rencontre le propriétaire d'un grand journal et lui dit, cher ami, vous savez, l'affaire Beljanski, vous ne devriez pas vous occuper de ça, ça n'intéresse personne.
Bon, c'est
le
comme
journal,
ça
il comprend très très bien ce qui se passe.
Oui, c'est comme ça que ça se passe.
Le meilleur médicament qui soit est une bonne alimentation avec de bons produits, c'est-à-dire absolument pas les produits qui sont en vente partout en France.
C'est ce il ne faut pas exagérer entendre. Quand il y a une
c'est
maladie.
C'est ce qu'on a pu entendre au Libre Journal des artisans d'hier soir.
Non, non, mais c'est pas le meilleur
ça
médicament.
Aide à ne pas partir.
Non, non,
c'est pas
j'ai,
un médicament.
J'ai écouté le Libre
c'est
Journal hier soir.
C'est la meilleure
hier
prévention.
Soir.
C'est la meilleure prévention.
Oui, moi, mes enfants mangent bio, etc.
Malheureusement, ça ne suffit pas tout ça.
Les Hunza qui vivent sur les plateaux de je ne sais quoi, qui respirent un air complètement pur, qui mangent des fruits, qui n'ont jamais subi le moindre traitement, qui boivent de l'eau fraîche.
Il y a quand même des gens qui ont un cancer dans ces conditions.
Là-bas, c'est pratiquement pas. C'est connu pour le pays où
il y en a moins.
Oui, bon.
Puis de toute façon, ils meurent quand même.
Ah,
alors, il y a une série de questions pratiques. Je vous les lis toutes. Peut-être vous répondrez après. Enfin, vous voyez. Les produits Beljanski agissent-ils sur les cancers de la peau et plus particulièrement la formation des mélanomes?
Sur le mélanome, oui, ça agit.
Sont-ils actifs sur tous les cancers ou constituent-ils un traitement spécifique pour certains? Si oui, lesquels?
La plupart.
Comment peut-on utiliser les produits Beljanski quand on est à l'hôpital? Il faut se cacher.
L'hôpital ne vous empêche quand même pas de prendre des gélules.
Il faut aller dans les toilettes.
Non, mais c'est vrai que les parents,
faut pas exagérer.
La famille les apporte. Et puis
tout à fait.
C'est quand même pas. Les hôpitaux n'exercent pas une surveillance policière sur les malades en permanence.
Tout à fait.
D'ailleurs, il n'y a qu'à aller voir les cures de désintoxication où les gars font rentrer du whisky dans les bouteilles d'eau de Cologne.
Pouvez-vous nous indiquer le nom des médecins qui peuvent suivre les malades avec vos produits?
Non, parce que ce serait les désignés à la vindicte. Par contre, on peut téléphoner à Natural Source à New York. Je peux donner le numéro de téléphone.
On donnera l'adresse à la fin, si
voilà,
vous
tout
voulez.
À fait.
Alors, pour quelqu'un que l'on dit guéri, les traitements Beljanski sont-ils conseillés?
On peut faire des cures, parce que ça peut agir de façon préventive, donc c'est très bien de faire une cure, par exemple, à l'automne et au printemps, qui sont les périodes toujours de risque de récidive.
Si les produits Beljanski ne peuvent être reconnus comme médicaments, pourquoi ne pas les distribuer comme des yaourts, sans encourir d'actions en justice?
Ils sont actuellement distribués comme compléments alimentaires.
Pour Madame Beljanski, je vous suggère d'envoyer dans les plus brefs délais un dossier explicatif relatant les formules intrinsèques des produits Beljanski. Pourquoi? Parce que Monsieur Mattei n'a de souci que de faire des économies. En ce sens, si réellement ces produits sont efficaces et reconnus comme tels, cela ne pourra qu'alléger le trou de la sécurité sociale et sauver des vies.
Bah écoutez, au gouvernement, ils sont, je crois, très bien informés de la situation des produits Beljanski, puisqu'ils ont été des artisans de tous nos malheurs, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de leur donner des explications supplémentaires.
Au moment où l'on veut officialiser...
En plus, ils ont un dossier tout plein, tout à fait prêt au ministère de la Justice. Hein,
et tout à fait.
Ça, il est complet, le dossier.
Au moment où l'on veut officialiser l'euthanasie des vieux, il ne faut surtout pas guérir les malades.
Ça, c'est vrai, en plus, oui.
Alors, à propos du livre, des auditeurs demandent si dans le livre de Jean-Paul Leperlier, il y a des adresses et des renseignements pratiques. Et quel est l'éditeur de ce livre?
Oui, alors...
Donc, vous rappelez, s'il vous plaît, le titre.
J'ai noté tout ça. Alors, voilà. Bon.
Le titre,
alors,
déjà.
Oui, alors, le titre, c'est « Enquête sur un survivant illégal ». L'auteur, en principe, c'est ma femme qui a réécrit ça parfaitement bien dans le goût du jour.
Parce que moi j'ai surtout française, fait. Vous,
oui, oui. Ben oui, non, mais j'ai surtout fait moi une enquête et je lui ai ramené l'enquête à travailler dessus. Et ben, bon, voilà, etc.
C'était facile. Le livre, il faut dire quand même, est signé Sophie Chervet.
Oui, non, mais il y a marqué sur une enquête de Jean-Paul Leperlier. Oui, tout de même, ne me retirez pas.
À l'intérieur, mais sur la couverture.
Oui, mais c'est vrai. Mais ma femme
est
une très jolie petite femme. Voilà. Et je l'aime bien.
L'éditeur.
Alors l'éditeur s'appelle Guy Trédaniel éditeur, voilà. Hein. Le téléphone de l'éditeur, c'est le 01 43 36 41 05. Je répète, 01 43 36 41 05. Alors,
Le prix.
Le prix sera de 18 euros. Il y a 237 pages, dont 32 illustrations et photos. dont des documents scientifiques pour les médecins éventuels.
Ça, c'est bon, un vrai
alors attendez. Allons plus loin. Le livre sera donc distribué à partir de novembre, début novembre, dans toutes les librairies. Mais pour les gens qui voudraient l'avoir avant tout le monde, 50 exemplaires ont été déposés aujourd'hui à la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne, dans le 7e arrondissement. Je répète, la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne, dans le 7e arrondissement. Voilà. Et le prochain livre de la collection, ça sera... C'est une collection d'abord qui s'appelle « Survie illégale et guérisons interdites au pays des droits de l'homme ». Et le prochain livre, ce sera « Ces Bretons qui ne voulaient pas mourir ». Parce que le sous-sol de la Bretagne est extrêmement granitique, comme chacun sait. Ce qui fournit des ondes qui sont plutôt nocives. Il y a un fort pourcentage de cancers, beaucoup plus là-bas qu'ailleurs. J'ai donc décidé de faire mon enquête sur des Bretons, dont Jean Le Guen, qui est aussi le premier Breton soigné par les produits Belgianski suite à un cancer avec 18 ans de survie. Alors qu'il était dans le coma au début du traitement.
Je ne révélerai rien, mais on retrouve brièvement Gérard Wedlich dans le bouquin sur Le Guen.
Ah oui, d'une manière absolument rigolose. Je peux dire ça très vite si j'ai une petite seconde. Parce que Gérard Wedlich était surtout sauveteur. Il était quand même CRS. Il m'a d'ailleurs dit, pour moi, CRS-SS, ça voulait dire CRS, sauveteur secouriste. Et il était en même temps l'infirmier de sa compagnie. Ça n'empêche pas que de temps en temps, on l'emmenait avec une matraque, notamment quand des paysans bretons attaquaient une préfecture. Il faut savoir qu'il y a une hiérarchie au niveau police. Un étudiant, c'est pas grand-chose. Un ouvrier, il faut un peu plus de CRS ou de gendarme. Alors, un paysan breton, là, il en faut parce que c'est des solides.
Oui.
Alors, il est là, devant une gendarmerie quelque part dans le Finistère ou ailleurs, devant une préfecture, il y a des petits ponts qu'il faut les empêcher de passer pour sauver la préfecture, les Bretons sont fous furieux, et Gérard, lui, faisait le désespoir de ses chefs, parce que lui, c'était pour un CRS matraque. Alors, il était là, d'ailleurs, à attendre qu'on attaque, puis tout en discutant. Là, vous savez, là, je comprends que vous avez des problèmes. Alors, nous, on a essayé un produit extraordinaire qu'on a essayé dans des élevages. Et alors, ce produit-là, ça vous fait des portées beaucoup plus importantes. Alors, les Bretons, une viande encore meilleure, etc. Et d'ailleurs, il y a un de vos amis qui doit très bien connaître ça, il s'appelle Le Guen. Alors là-dessus, un petit bonhomme, la casquette de travers, arrive comment ? On parle de moi, qu'est-ce que c'est que ça ? Gérard dit, vous êtes Le Guen, le premier cancéreux soigné par les produits Belgianski. Moi, je suis le premier sidéen soigné par les produits Belgianski. Alors, au désespoir du commandant de CRS, qui était un petit peu plus loin, il voit les manifestants tomber dans les bras d'un de ces CRS, ils comprennent plus tout ce qui se passe, n'est-ce pas ? Et alors, le manifestant retourne parmi les autres, énorme conciliabule. Toute la manifestation vient demi-tour et il n'y a pas eu de bagarre ce jour-là. Et voilà comment Wedlich a rencontré Le Guen, qui sera le héros du prochain livre et qui donc s'est sauvé par les produits Belgianski avec 17 ans de recul aujourd'hui.
Très belle histoire.
Voilà. Ça me rappelle l'émission où était diffusé l'entretien entre Jean-Paul Leperlier et M. Le Ribot au sujet de ces produits. Mmh. Le Ribot n'est pas mort, lui, mais il est parti en Irlande pour pouvoir diffuser.
Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi différemment. Et il y a aussi la personne qui a dirigé, qui a créé l'éthiopathie en France, qui a eu au départ les pires produits, parce que l'éthiopathie, c'est une manière de soigner sans médicaments. Catastrophe pour les laboratoires. Alors évidemment, on a traîné cette personne en justice. Mais il est arrivé la première fois devant le tribunal avec les signatures de 1500 maires qui le soutenaient et une manif dans la rue de plusieurs milliers de personnes. La deuxième fois, il avait les signatures de 4500 maires et une énorme manifestation. Et depuis, il y a quatre facultés d'éthiopathie en France, et il y en a d'autres en Europe, et ça marche très bien, et on lui fout la paix, et il continue de guérir des gens sans médicaments.
Merci Jean-Paul Leperlier, merci Monique Belgianski. Je vais donner une adresse, enfin un numéro de téléphone qui est très important. C'est le numéro de téléphone de la société Natural Source qui s'occupe de la distribution et de l'information et de la distribution des produits Belgianski et qui est à New York. Alors vous affolez pas, je les appelle souvent et vous appelez vers 15h et vous tombez sur quelqu'un qui parle français. Je sais pas comment ça marche, on vous répond en français. J'ai toujours été surpris. Donc le numéro de téléphone est facile à retenir, c'est de France, on fait 00 12 12 308 70 66. 00 12 12 308 70 66.
Quand on a l'adresse, c'est très rapide, hein, par fax.
Oui, mais là, il vous explique tout ce qu'il faut faire. C'est absolument impeccable. Ça marche très bien.
Est-ce qu'il y a une autre adresse à donner que le numéro de téléphone?
Non. Il y a l'adresse du CIRIS, bien entendu.
Oui, on peut donner le numéro de fax.
Le CIRIS, on l'a déjà donné tout à l'heure. Mais le CIRIS, donc le téléphone, c'est le 05 46. 05 46 75 39 75. Je répète, CIRIS 05 46 75 39 75. Et pour ceux qui veulent écrire, c'est boîte postale 9 17 550 Dolus. Boîte postale 9 17 550 Dolus.
C'est pas Dolus de Léron ?
Dolus de Léron, mais il suffit de marquer Dolus, ça arrive très bien. Voilà. Alors je reprends une dernière fois quand même, ce sera la dernière annonce, enfin, en ce qui me concerne. Donc, pour ceux qui veulent les 50 premiers livres en circulation, ils sont dès ce soir à la librairie Duquesne, 27 avenue Duquesne, dans le 7e arrondissement, pas loin de la Tour Eiffel. Merci.
Merci Jean-Paul. Merci.
Merci à vous.
Et on change de Monique, comme ça, hop. Monique Delcroix, vous venez nous parler d'une initiative que vous avez prise avec un certain groupe, enfin, un groupe d'amis.
Tout à fait.
Qui est une fête de l'identité et des libertés. Alors, j'aimerais bien savoir de quoi il retourne.
Je suis là pour ça. Tout d'abord, Serge de Becquetch, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité sur votre émission de Radio Courtoisie pour venir présenter cette fête de l'identité et des libertés dont on commence un petit peu à parler, mais c'est vrai que beaucoup de gens se demandent de quoi il s'agit exactement. Alors, d'abord, je précise la date. Ça aura lieu le samedi 9 novembre, Salvagram à Paris, toute la journée à partir de 10h. Alors, je précise aussi pour les provinciaux que la Salvagram, c'est le 39 avenue de Wagram. 39 et non pas 19, comme ça avait été indiqué par erreur.
C'est tout à côté, c'est entre l'étoile et la place des Termes.
Voilà, bon, c'est assez facile à trouver, mais enfin, c'est le 39. Et j'en profite aussi tout de suite pour donner le numéro de téléphone, si les explications que je donne ne sont pas suffisantes. Vous pouvez téléphoner à la maison de l'identité au 01 45 40 84 61. Donc si ce que je vais dire dans les minutes qui suivent ne vous suffisent pas, n'hésitez pas à téléphoner. En principe, il y a toujours quelqu'un qui répond. Sinon, vous laissez votre numéro de téléphone et on vous rappelle. Alors, fête de l'identité et des libertés. De quoi s'agit-il ? La vocation de cette journée, c'est essentiel de le dire, c'est avant tout de rassembler. C'est une journée qui n'a rien à voir avec la politique politicienne, rien à voir avec la politique électoraliste. En revanche, il est clair qu'elle s'adresse à toute notre famille de pensée, celle qui écoute les émissions de Serge de Becquetch. Hein. Sans insister là-dessus, parce qu'on voudrait bien tourner la page, mais enfin malgré tout, on sait bien que depuis 4 ans, il y a eu des remous, qui ont causé des blessures, hein, je crois qu'il faut le dire, parce que c'est vrai, et que ces blessures, elles seront sans doute longues à cicatriser. Mais d'un autre côté, ce qui domine beaucoup, ce qu'on entend beaucoup dire parmi les amis, dans les courriers de lecteurs de nos journaux, c'est un désir de se retrouver, une nécessité fortement ressentie de mettre nos énergies en commun. Et bon, on est un certain nombre à s'être dit, faut commencer. Et finalement, le meilleur terrain pour se retrouver, c'est peut-être celui qu'on n'a jamais quitté, à savoir celui des idées. Donc, voilà l'idée de base de cette journée. Alors, comme on dit, ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise. C'est ce qu'on va essayer de prouver. Alors, on se rassemble sur quoi ? C'est justement le choix du nom, identité et liberté. Alors, je vais expliquer rapidement. Identité. Bon, identité, ça nous a paru être le mot le plus adapté pour que chacun y retrouve son attachement primordial, qui peut être pour les uns sa région, la France, pourquoi pas l'Euro-Sibérie, cher à Guillaume Faye, qui peut être les cathédrales ou les temples grecs. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose de fondamental qui nous est commun à tous, c'est qu'on se bat pour quelque chose qui nous dépasse, pour préserver un capital reçu et pour transmettre une civilisation qui est la nôtre. La nôtre, hein. On peut très bien s'intéresser aux Aztèques ou aux Maasai, mais on se bat pour notre civilisation, ça c'est le mot identité. Les libertés, pourquoi les libertés ? D'abord parce qu'elles font partie de notre identité, je crois qu'on ne le dit pas assez souvent, mais les civilisations européennes sont les seules qui aspirent à la liberté, ça n'existe pas chez les autres. Hein. De Galilée à Molière, le génie de nos peuples ne peut s'exprimer que s'il bénéficie de la liberté. Et puis ensuite, parce que les libertés sont menacées, très sérieusement. Bon, on vient d'en avoir un exemple avec ce que vient de dire Mme Beljanski et Jean-Paul Leperlier. Et moi, je pense tout particulièrement à la liberté d'expression, qui est aujourd'hui terriblement menacée. Bon, Serge de Becquet, vous en savez quelque chose, hein, puisque vous êtes directeur du Libre Journal. Et ça, c'est
fondamental. Ma femme, tu en sais quelque chose.
Oui, votre épouse, oui, tout à fait. Donc, que ça soit les écrivains, les journalistes, et même aujourd'hui tout un chacun, on sait très bien qu'on ne peut pas dire ce qu'on pense. Donc ça, c'est tout à fait fondamental. Donc voilà les grandes lignes. Alors maintenant, concrètement. Alors concrètement, la journée se déroulera de 10h jusqu'au soir, puisqu'elle va se terminer sur un concert de rock identitaire français. Alors
on
là,
est pas
bon...
obligé de rester, j'espère.
Non, pour tout vous dire, moi dans rock identitaire français, il y a deux mots que j'aime bien, c'est identitaire et français. Bon, mais enfin, il paraît que les jeunes gens, j'entends bien les jeunes gens apprécient.
Non, donc, mais ils sont très bien, ces jeunes gens.
Voilà, ils sont très bien.
Il y a souvent de belles paroles.
Il y a souvent de belles paroles, voilà. Et donc l'entrée, le prix sera de 10€ pour la journée. Alors là, qu'on reste de 10h à 23h ou qu'on reste une demi-heure, c'est 10€. Il n'y a pas de tarifs spéciaux, on est obligé d'aller au plus simple. Il y aura à l'intérieur une restauration possible avec buvette et
même une restauration nationale, j'imagine.
Oui. Alors ça, la buvette, ça sera en plus, hein, bien sûr, ça sera payant à des prix tout à fait raisonnables. Donc, que va-t-il se passer à l'intérieur de la salle Wagram? Mais il y aura des stands, hein, suivant un schéma tout à fait classique, avec des journaux. Tous nos journaux seront présents. Rivarol présent, bien évidemment, le Libre Journal, des journaux plus jeunes comme Outlagui, comme Réfléchir et Agir, enfin, etc. Je reviendrai sur le programme dans un instant. Il y aura des associations, des objets d'art, un marché de Noël, il y aura du champagne. On pourra déjà penser aux cadeaux de fin d'année. Et à ces stands, je pense plus particulièrement à l'aspect littéraire, de nombreux auteurs vont venir dédicacer leurs livres. Alors bon, je cite en premier François Brignot, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu.
Avez réussi à déranger François Brignot.
Mais oui.
Alors là, chapeau bas devant la gare éclair.
Oui, les éditions François Brignot m'avaient dit « Nous serons là », mais François n'y comptait pas trop. Non. Et quand on lui a téléphoné, ça a été oui tout de suite, Et ça nous a fait très plaisir. Pareil, il y aura Georges Paul Wagner aussi, va venir. Martin Pelletier, Jean-Claude Vallat, François-Xavier Sidos, Alain Pascal, Raymond Muel, Henri de Fersan, Philippe Almeras, etc. Il y en aura vraiment, je dirais que vraiment toute la panoplie va être représentée. Hein. Et vous allez le voir encore mieux avec, je vais vous énumérer les tables rondes. Parce qu'il y aura les stands donc tout autour de la salle et au centre un podium où il y aura le concert le soir et avec des tables rondes dans la journée. Donc là aussi, ça va donner une idée plus précise aux auditeurs de ce que nous voulons faire. Donc les tables rondes commencent à 11h avec Guillaume Fay. Donc Guillaume Fay qui va venir un petit peu réveiller les gens. Hein. Si on n'est pas d'accord avec lui, ça sera le moment de venir le dire. Ensuite, une table ronde sur la presse identitaire, une arme au service de nos idées, animée par Denis Daud et Françoise Monestier, avec Serge de Becquetch, Jérôme Bourbon pour Rivarol, Olivier Chalmel pour Terre et Peuple, Alain Sanders pour Présent, Réfléchir et Agir. Ensuite, il y aura une petite pause pour le buffet. Les tables rondes reprennent à 14h30. La première sur le totalitarisme judiciaire, avec Éric Delcroix. On y trouvera notamment Camille Gallic, directrice de Rivarol, qui sera là. Jean-Louis Berger, dans le rôle d'une victime. Pascal Junot, qui est un avocat suisse, hein, bien sûr, par ailleurs directeur des Amis de Robert Brasillac. Et il y aura aussi un intervenant spécialisé en matière de liberté d'expression, en matière scientifique, et notamment de biologie scientifique. Ensuite, une table ronde plus politique, Identité, Région et Europe, qui sera animée par Olivier Chalmel. Et on y trouvera notamment Xavier Guillemot, Robert Spiller, Pierre Hillard et Martin Pelletier. Et la dernière table ronde sera l'impératif culturel. Alors là, on se retrouve un peu à Radio Courtoisie, puisqu'elle sera animée par Anne Brassier. Et elle va rassembler, donc vous voyez, vous allez voir, c'est assez différent. Donc Georges Paul Wagner, Jean-Pascal Cerbera, et également l'abbé de Tannouarne et Pierre Vial.
Ça va chauffer là.
Ça va chauffer. c'est là qu'on verra si vraiment ceux qui nous rassemblent est plus fort que ceux qui nous divisent.
Je crois, oui.
Et je crois qu'il faudrait bien que la réponse soit oui. Et donc, tout à fait à la fin, Louise Allot et Gilles Pénel présenteront l'association qui organise cette fête, qui s'appelle la Maison de l'Identité. Bon, là, je vous laisserai découvrir, mais je tiens surtout à bien préciser que ce n'est en rien politique électorale. Voilà.
Je vous redonne la parole, si vous voulez, juste après la coupure pour 2 minutes, mais il faut laisser la place à la technique.
Dans deux minutes, donc, la deuxième partie du Libre Journal de Serge de Beketch en direct. Très bonne soirée. Vous êtes bien sur Radio Courtoisie, il est 19h30. Radio Courtoisie.
La radio libre du pays réel.
Et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beketch, dirigé en seconde partie par Daniel Amiche avec l'assistance de Jacqueline Levenbruck, diffusé en direct mercredi 30 octobre 2002 de 18h à 21h, en différé jeudi 31 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Bien, ma sœur, si vous voulez continuer. Je dis ma sœur parce que j'ai un auditeur qui dit ce qui nous ressemble est plus important que ce qui nous divise est une devise typiquement franc-maçonne. Je sais pas où il est allé pêcher
ah,
ça.
C'est
un vieux truc, tout le monde dit ça, c'est tellement évident en plus.
Oui, c'est une formule.
Mais maintenant, on peut plus rien dire sans être ou franc-maçon. Ou alors, et pour cet auditeur-là en particulier, parce que je le connais, il est repéré, vous êtes repéré, monsieur, je vous le dis.
Ah bon, d'accord.
Il y a un petit signe sur le, parce qu'on connaît votre voix, donc, les gens disent, alors, donc il y a un petit signe, tout est enregistré, bien sûr. Et alors,
ou on est gnostique
ou on est franc-maçon. Mais
je pense que voilà. La formule est d'une, hélas, d'une banalité qui la sauve.
Oui, c'est pas parce qu'elle est banale qu'elle n'est pas vraie.
Voilà, je crois, en tout cas.
Donc, ma sœur, continue à m'exposer les.
Bien volontiers, voilà. Mon frère. Je continue. Ceux qui ont. Encore une fois, je remercie Serge de Beketch de m'avoir permis de présenter cette fête de l'identité et de la liberté. Je ne vais pas en recommencer tout ce que j'ai dit.
Vous pouvez toujours dire du bien de moi, ça ne me gêne pas.
Oui, bien sûr. On le pense, vous savez bien qu'on le pense, Serge.
Ah oui, faut dire du bien aussi d'Amiche, parce que c'est lui qui vous reçoit maintenant.
Ah oui, alors merci Daniel Amiche, merci. Voilà. Oui, alors simplement, je vais donc répéter que cette fête aura lieu le samedi 9 novembre, salle Wagram, qui est 39 avenue de Wagram à Paris, toute la journée à partir de 10h, jusqu'à 19h pour la partie classique et jusqu'à 23h pour les amateurs de rock identitaire français. Tous ceux qui ont mal entendu ce que j'ai dit, qui n'ont pas compris, qui ont plus de questions à poser, peuvent téléphoner au 01 45 40 84 61. Je crois que la liste des participants que j'ai donnée montre qu'ils ont une qualité, enfin on sait que ce sont des gens d'une qualité tout à fait remarquable et que leur diversité témoigne bien de cette volonté qui est la nôtre, qui présidera à cette journée, qui est d'unir nos forces.
Mais enfin, ils sont quand même tous de droite, hein. Il faut bien. Moi, j'ai remarqué ça, parce que vous avez essayé de le cacher depuis le début, mais.
Oh, allez, si c'est quand même un peu à droite. Si vous me poussiez un peu, Serge, j'en connais qui ne sont pas tout à fait à droite et qui sont pas mal non plus.
Justement, mais bon. Serge de Becquet, il va aussi dans ce pandémonium.
Il y est, il y est.
Il est bien de droite.
Je me pose la question de plus en plus.
Donc je crois qu'il est très important que cette fête ait du succès parce qu'elle va dans le bon sens. Alors elle ne sera pas parfaite, on a fait des erreurs, on a fait tout ça très vite. La décision a été prise fin août. Hein.
Celui qui va être surpris, c'est le type qui habite au 19 de l'avenue de Wagram.
Oui.
Tu vas voir arriver les gens.
Non, la salle Wagram a déménagé. Elle est passée du 19 au 39. Venez nombreux. D'abord, vous passerez une bonne journée entre amis. Et ensuite, par votre présence, eh bien, vous direz que vous avez cette volonté qu'on se retrouve tous réunis et qu'on aille de l'avant, en particulier en pensant aux jeunes gens.
Merci Monique Delcroix. Vous saluerez Maître Éric Delcroix qui a le bonheur de partager votre existence.
Vous ne manquerez pas de le saluer.
Bon, ben je vais
ouais,
laisser la parole.
Vous n'êtes pas obligé de rester.
Non, je vais m'en aller. Mais avant, je voudrais lancer un appel solennel. Je sais qu'il y a quelques-uns des 600 000 auditeurs de Radio Courtoisie qui ne sont pas encore abonnés au Libre Journal. Pas beaucoup, mais deux ou trois.
Attendez, à 599 998, oui, il y en a deux qui sont vraiment des...
Donc je leur lance un appel solennel parce qu'on a vraiment besoin d'abonnés. On a vraiment besoin de sous, parce que, curieusement, les sous nous aident à faire un journal. Bon. Et donc, si vous avez l'intention de vous abonner, ne remettez pas à deux mains ce que vous pouvez faire d'une seule, signer un chèque,
oui,
de
ça
110
aussi, c'est
euros.
Une belle formule.
C'est une belle formule.
Mais il faut savoir que Dieu a tout créé sauf l'argent.
Sauf l'argent.
Donc il faut se soulager de la seule chose qui nous est donnée et que Dieu n'ait pas créée.
C'est vrai, ça. Et oui, bah alors c'est ça. Débarrassez-vous de votre sale argent. Vous faites un chèque à Société SDB, ou SDB simplement. 4 places Francis, 110 euros. Vous recevez le Libre Journal. Et après, vous avez des mois de félicité. Hein, il est bien.
Je dois dire que j'ai toujours plaisir à le lire.
Bon.
Je suis pas toujours d'accord, évidemment, avec ce qu'il dit. Parce qu'il nous rapproche, c'est plus important que ce qui nous divise.
Mais encore un.
C'est une lecture extrêmement roboratif. C'est vraiment, au sens fort du terme, c'est très roboratif.
Si vous êtes déjà abonné et que vous voulez abonner quelqu'un, vous faites une économie quand même considérable de 10 euros, parce que pour abonner quelqu'un, c'est 100 euros seulement. C'est formidable.
100
euros.
Victoria, c'est ça, les liaisons dangereuses ou qui est...
Non, c'est parfaite.
100 euros et 110 euros avec un Z comme pyjama à bretelles.
Moi d'ailleurs, je copie Serge Becquet dans mes propres publications, dans ma propre publication, dont je ferai la publicité plus tard, parce que je ne vais pas empiéter sur son temps de parole, mais systématiquement...
Laisse le temps de faire l'échec, alors...
voilà, c'est ça. Quand on dit 10 euros, j'écris 0, Z-E-U-R-O-S, ou les euros, les neuros, etc.
Mais nous, on l'écrit officiellement dans le journal.
Ah, nous aussi, ça y est, c'est...
de temps.
Ah oui, c'est bien.
Il faut aller jusqu'au bout du grotesque. Il y a d'ailleurs un papier remarquable de Clément dans le numéro qui vient de sortir là sur l'europiège où il dit alors où on en est maintenant, vous nous avez promis mon émerveil avec l'euro. Et alors, on a l'air de quoi? On a l'air de...
Oui, de ce qu'on est. Exactement. Soyons polis parce qu'il y a des gens à table.
Très bien. Merci Daniel et bonne soirée. Je dis à nos auditeurs, bonne semaine, que Dieu nous garde.